Nous sommes jeudi le 22 avril 2021. Il fait un soleil radieux, ma foi du bon Dieu. C'est la première édition du 100% sport en zone neutre live. Merci d'être là ce soir et gênez-vous pas pour interagir avec nous autres. On va jaser de plein de sports, c'est garanti. Donc, dans quelques instants, on vous revient. Yes! Bonsoir tout le monde. J'espère que vous aimez le petit setup. Ce soir, c'est le début d'une nouvelle aventure pour En Zone Neutre. En Zone Neutre devient 100% sport à partir de ce soir. Donc, vous avez vu passer probablement sur En Zone Neutre la page Facebook, un peu partout. Toutes les publications que j'ai fait cette semaine, j'ai fait quelques vidéos le matin aussi pour lancer tout ça avec quelques résultats sportifs. Voilà, ça me tentait de parler de sport. Ça fait vraiment longtemps que, au départ, je voulais parler beaucoup de sport dans mon podcast. Je me suis laissé aller à vouloir parler un peu de toutes sortes de choses. Puis finalement, ça revenait beaucoup au sport, à l'humour, puis de temps en temps un peu de communautaire, puis tout ça. Et j'ai décidé que ça allait être 100% sport et que j'allais possiblement faire des entrevues à l'occasion, mais que ça allait être, tu sais, sur ma page d'humoriste ou sur ma page personnelle. Donc j'attends vos commentaires tout au long de l'émission. Je veux que ça soit une émission super interactive. Il va y avoir des collaborateurs qui vont revenir de semaine en semaine. Ce soir, on en accueille quelques-uns d'ailleurs et une partie entrevue. Donc c'est comme ça que ça va être semaine après semaine. On va repasser l'actualité sportive un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière semaine. On va parler bien sûr de hockey, on va parler du Canadien de Montréal, des Sénateurs d'Ottawa, on va parler de la Ligue nationale en général. Je vais m'amuser dans tout ça. On va recevoir des collaborateurs que vous avez déjà vus sur le show et des nouveaux collaborateurs aussi. Et sans vous, ce show-là va être un peu plus plate. Donc, je vous invite à participer, poser des questions, allez-y de commentaires. C'est qui votre équipe préférée, tout ça. Il va y avoir une question du jour qu'on va poser À chaque semaine. D'ailleurs, le podcast en zone nerd va être live à tous les jeudis. Par contre, il va avoir, comme j'ai commencé cette semaine, des capsules vidéo et audio qui vont être disponibles sur YouTube et sur Spotify et Google Podcast. Donc, allez vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est très simple. C'est en zone neutre podcast sur YouTube. Et allez vous abonner aussi. Allez télécharger les épisodes audio quand vous avez de la route à faire, tout ça. On va essayer d'être assez divertissant. Et ça, c'est la base là, du podcast. Moi, je suis pas un expert. Je suis juste un amateur de sport. Je suis un humoriste, en fait. Fait que souvent, ça va être moi le niaiseux qui va se tromper dans certaines choses. C'est moi le gars qui va couper mes invités pour dire une niaiserie. Et ensuite les ramener sur le droit chemin. Donc ça va ressembler à ça un peu chaud. Et comme je le dis, je veux que ça soit le plus interactif possible. D'ailleurs, regardez, on va toujours mettre vos commentaires à l'écran comme ça. Christian Ménard qui dit bravo Simon, merci Christian. J'espère que tu vas être à l'écoute. J'espère que tu vas partager. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à le partager le live de ce soir pour qu'on ait le plus d'interactions possible. Donc merci Christian d'être là et merci tout le monde qui est à l'écoute en ce moment. Je commence avec juste un petit retour sur cette semaine. On a vu que le Canadien a eu quelques soirées de break. Canadien qui est à 49 points en ce moment, donc au quatrième rang de la division Nord, la division canadienne, avec 44 matchs de disputés. Et ce soir, il y a un match assez important pour le Canadien, mine de rien, c'est les Sénateurs qui affrontent les Canucks. Pourquoi je dis que ce match-là est intéressant pour le Canadien, c'est qu'on voit les Flames en cinquième place dans la division Nord présentement, et on a l'impression que c'est eux autres la menace du Canadien, alors qu'en fin de compte, les Flames ont disputé déjà 45 matchs et ont 41 points. Donc techniquement, l'équipe qui est un petit peu plus derrière, mais qui pourrait causer une surprise, puis je l'ai dit sur mon podcast matinal cette semaine, les Canucks ont eu beaucoup d'adversité dernièrement, une vingtaine de joueurs qui ont attrapé la COVID, mais c'est malheureux et tout, mais si tu pense à un événement qui peut rapprocher un groupe de joueurs. Je pense que la maladie, c'est assez intense. Donc oui, ils doivent avoir perdu quelques énergies dans tout ça. Mais en bout de ligne, s'il y a un événement qui peut rapprocher ces joueurs-là, puis avoir un but commun de faire les séries, cette équipe-là peut être dangereuse. Elle a disputé seulement 39 matchs présentement, a 39 points. Et s'ils gagnent tous leurs matchs, en fait, ils vont être à égalité avec le Canadien après 44 matchs. Ce qui pourrait être un petit peu de compétition du côté du Canadien. Les Sénateurs sont pas là. Pour les fans des Sénateurs, bon, c'est pas. C'est pas ce qui est le plus rose en ce moment, mais écoutez, il y a un choix au repêchage qui s'attache à tout ça. Donc. Ça peut être intéressant pour les Sens. Sinon, on va parler de baseball. On va parler de baseball dans le premier bloc avec mon premier invité, en fait. Et on va parler des Blue Jays, c'est sûr. Les Blue Jays qui vont entamer demain une série de trois matchs contre les Expos. Contre les Rays, en fait. Mais bon, peut-être les futurs Expos. Ils envoient sa butte Steven Matz, qui fait vraiment de la grosse job pour les Blue Jays. Un gars qu'on s'attendait pas. On savait pas s'il allait être performant, est-ce qu'il allait être de retour au sommet de son art, ancien des Mets, et force est d'admettre que ça va plutôt bien de son côté. Cette semaine aussi, il y a eu Patrick Marleau, joueur des Sharks de San Jose, qui est devenu le joueur ayant disputé le plus de matchs dans la Ligue nationale de hockey. Donc, 1768 matchs de disputés. La plupart avec les Sharks de San Jose, ce qui est encore plus remarquable. Une équipe qui œuvre en Californie. Donc, tu sais, c'est facile de s'écœurer du hockey quand, il me semble, il fait 40 degrés dehors puis tu peux faire de la beach. Donc, c'est tout un exploit pour Patrick Marleau. Et d'ailleurs, à chaque émission, je vais essayer d'avoir une question pour vous autres, pour vous faire réagir justement dans les commentaires un petit peu partout. Et ma question du jour aujourd'hui, c'est: Est-ce que Patrick Marleau s'en va directement au Temple de la renommée du hockey? Donc, gênez-vous pas, allez dans les commentaires, répondez à cette question-là. Ça peut être humoristique, ça peut être sérieux comme commentaire. Allez-y de questions si vous n'êtes pas sûr qui est Patrick Marleau. Gênez-vous pas, ce show-là est pour tout le monde. Donc, voilà, la question du jour est posée. Est-ce que Patrick Marleau s'en va directement au Temple de la renommée? Au niveau du basketball, moi, je suis peut-être pas le plus connaisseur de basket, mais je vais essayer de vous avoir des collaborateurs sur le show qui va pouvoir vous expliquer ou pouvoir mieux vulgariser un peu ce qui se passe dans le monde du basket. Ce que je suis capable de voir, c'est les statistiques. Tu sais, les Raptors de Toronto, qui est notre équipe canadienne, ils jouent pas à Toronto, mais c'est pas grave, c'est notre équipe canadienne quand même. Hier, ils ont emporté 114-103 contre les Nets de Brooklyn. Puis les Nets de Brooklyn, là, c'est pas des deux de pique. Les Nets de Brooklyn, c'est la deuxième position dans la conférence de l'Est. Donc, c'est une très, très, très bonne équipe dans la NBA. Et les Raptors, avec cette victoire-là, viennent d'en aligner, mine de rien, 4 de suite. Et sont à 4.5, 4 matchs et demi, dans le fond, des séries, d'une place en série. Et pour ceux qui se le demandent, la NBA, ça fonctionne un peu comme la Ligue nationale de hockey. Les équipes qui vont en série, il y en a 8 par conférence. Donc, ça ressemble un petit peu à la Ligue nationale de hockey. Pardon. Et bon, les Raptors qui sont assez bons en offensive présentement parce qu'ils marquent en moyenne à peu près 112 points par match. Puis à 112 points dans NBA, tu vas remporter probablement la majorité de tes matchs, ce qui est très, 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 très bon présentement. Les petits Québécois, je dis les petits Québécois, mais ils sont assez grands, les Québécois au basket. Chris Boucher, qui joue d'ailleurs pour les Raptors, s'est blessé dans le match d'hier. Donc, c'est un sprained knee, qu'on dit, là. Donc, je pense que c'est pas si grave, mais bon, j'ai pas regardé aujourd'hui s'il y avait des développements dans ce dossier-là. Sinon, le petit Québécois aussi, Lugans Dort, qui joue avec Oklahoma City, qui a un rôle super important dans cette formation-là. Donc, les Québécois ou même les joueurs canadiens, mais un petit peu plus les Québécois. Autrefois, il y en avait quelques-uns qui jouaient dans des ligues d'importance comme la NBA et la NFL, mais aujourd'hui, en 2021, ces gars-là ne font pas juste jouer, mais ils ont des rôles importants. Donc, c'est vraiment le fun de voir ça puis de suivre dans chacun des sports. Donc, même si on n'est pas les plus grands fans ou les plus grands connaisseurs de ces sports-là, c'est le fun de suivre un peu les Québécois. Donc voilà la question du jour. Est-ce que Patrick Marleau s'en va directement au Temple de la renommée? 1768 matchs disputés. Il a dépassé cette semaine Gordie Howe, qui n'est pas un 2 de pique. Donc voilà. Voilà pour la question du jour. On est à l'épisode 25. On est à l'épisode 25 de En zone neutre. C'est sûr que les 24 premiers épisodes n'étaient pas 100% sport. Là, à partir de maintenant, ça va le devenir. Donc 100% sport au niveau du show comme tel. Et ce soir, donc, je vous présente quelques collaborateurs que je vais avoir avec moi à chaque semaine. Des partenariats qu'on a discutés ensemble pour justement, tu sais, faire une petite analyse un petit peu de qu'est-ce qui se passe dans chacun des sports, avoir un peu de contenu intelligent malgré le fait que je suis un humoriste et que, bon, c'est plus ou moins intelligent ce que je vais dire la plupart du temps. Donc, j'essaie de m'entourer avec du monde qui connaît ça un petit peu plus. Et, bon, le premier intervenant qui va être avec nous, en fait, on va l'amener avec nous puis on va expliquer un petit peu que ça va être quoi le rôle de sa gang et de lui dans le show En Zone Nerd. Donc, dans quelques instants, je l'amène avec nous autres. Ça sera pas bien long. Et il est là, mesdames et messieurs. Oups, j'ai plus de background. Attends une minute, là. Qu'est-ce qui se passe? Attends un petit peu. On va se mettre un petit background. La belle petite brique blanche. Non. Bon, et voilà. Charles-Alexis Brisebois de Passion MLB. Bienvenue au premier épisode 100% sport de En Zone Nerd. Comment tu vas?
Ben, ça va très bien. Très content d'être là. Le premier invité du premier podcast 100% sport, c'est un honneur.
C'est un honneur, hein? Ben, j'en doute pas. Puis écoute, c'est pas pour rien que tu es le premier. On va expliquer un petit peu quel partenariat on va avoir ensemble. Donc, toi, tu es à la tête, bon, de plusieurs trucs, là. Parce que Passion MLB, c'est plus seulement une page Internet où il y a de l'information de baseball, mais c'est un show de radio, c'est des chroniques de baseball au 91.9 Sport. C'est beaucoup de choses. Et je crois qu'avec tes collaborateurs, tes chroniqueurs qui sont avec toi sur Passion MLB, on va avoir un représentant de Passion MLB à toutes les semaines pour nous parler un petit peu de l'actualité, qu'est-ce qui se passe dans le baseball. Donc, je te laisse le plancher, nous dire comment ta gang vont être impliquée avec nous autres.
Ben écoute, c'est ça. Tu vois, sur l'émission, justement, au 91.9 de Passion MLB, j'ai quelques gars qui sont là avec moi. Là, tu sais, à toutes les semaines, il y a Sébastien Bérouard et Antoine Desrosiers qui sont là. Il y a quelques gars aussi qui font des apparitions occasionnelles. Là, on peut penser à Pascal Harvey. Ces gars-là vont venir justement sur le show parce que ce ne sera pas nécessairement juste moi. Les gens vont cette année toujours me voir. Moi, il y a d'autres stars dans mon équipe, donc on va leur donner du temps de jeu un peu. On va se séparer ça en groupe. Il y a tous les jeudis, on va s'assurer qu'il y a quelqu'un de Passion MLB justement pour venir sur le podcast et parler justement de l'actualité du baseball parce que il y a toujours de l'actualité à parler. Puis ça me fait penser, tu sais, je me fais souvent demander par rapport à l'émission, hey, t'as une heure à couvrir à toutes les semaines, est-ce que c'est beaucoup? Puis c'est tellement pas assez parce qu'il y a tellement de stock qui se passe, il y a toujours des angles différents à couvrir que d'avoir justement cette plateforme-là supplémentaire pour en parler en plus, pour amener l'angle différent, tu sais, qui est un format complètement différent de la radio, même si au final on jase de balle, ben, ça permet justement à Passion MLB de pouvoir aller encore plus loin.
Ben écoute, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, puis gênez-vous pas, je sais qu'il y a des chums qui voulaient qui avaient hâte qu'on parle de balle, là. Gênez-vous pas poser des questions à Charles-Alexis. Charles-Alexis, il connaît à peu près tout ce qui se passe dans le baseball majeur, pas le choix parce que ton rôle de chroniqueur ou de, tu sais, votre page, votre contenu dans le fond vient de ce qui se passe au quotidien dans le baseball majeur. Donc on va jaser un petit peu des Blue Jays, on n'a pas le choix. Début de saison des Blue Jays, tantôt très bon, des belles performances, tantôt c'est un petit peu plus compliqué. Comment tu vois ça depuis le début de saison, les Blue Jays, et est-ce que tu penses que ça se replace tranquillement?
Je pense que oui, ça se replace tranquillement. C'est un début de saison, c'est ça, un peu en dents de scie. Est-ce qu'il fallait le prévoir parce que c'est une jeune équipe? La réponse, c'est oui. Mais est-ce qu'on s'attendait à ce que le personnel de lanceurs réponde comme ça et que les frappeurs soient un peu moins dominants? La réponse, c'est non. On s'attendait à ce que les lanceurs aient un petit peu plus de difficultés et que l'attaque permette justement aux Jays de gagner des matchs par la marque de 8-7, par exemple. Mais là, c'est pas le cas du tout. Moi, j'aimais déjà bien la relève des Blue Jays, mais là, vraiment, depuis le début de l'année, je suis impressionné par ce que je vois. Malgré le fait qu'il y a plusieurs lanceurs qui sont allés sur la liste des blessés, c'est Jordan Romano, présentement, n'est pas disponible. Julian Merriweather n'est pas disponible. Tyler Chatwood n'est pas disponible. On pourra en nommer plusieurs comme ça. Kirby Yates qui ne lancera pas de la saison. Donc, ça fait en sorte que malgré tout, il y a des joueurs qui arrivent à s'élever. Moi, ça fait des années que je suis un peu biaisé par rapport à ce joueur-là, mais j'aime beaucoup ce que Ryan Burrocky est en mesure d'apporter. Puis d'avoir un Ryan Burrocky dans l'enclos des releveurs comme ça, qui n'a pas à lancer 5-6 manches, c'est vers la 5e, 6e que les risques de blessures apparaissaient, mais de le voir lancer un 2/3 de manche, de le voir lancer une manche, de le voir lancer 2 manches dans le cas du match contre Boston hier, ça fait en sorte qu'il est vraiment à sa place. Donc, il y a plusieurs éléments comme ça qui font en sorte que ça stabilise une rotation qui, pour l'instant, en général, on peut considérer qu'elle livre le travail. Injun Ryu, malgré sa sortie contre les Red Sox, a un bon début de saison. Tu parlais de Steven Matt d'entrée de jeu. Quel début de saison extraordinaire de sa part. Pete Walker, l'entraîneur lanceur là-bas, a vraiment son mot à dire sur ce qui se passe. Robbie Ray n'a pas un vilain début de saison. Nate Pearson va s'en venir éventuellement. Donc, je suis quand même satisfait de ce que je vois chez les lanceurs, mais c'est chez les frappeurs là, que je comprends pas ce qui se passe. On dirait que tout le monde est anémique en même temps. Puis, écoute, je vais te nommer Vlad Guerrero, je vais te nommer Bo Bichette, je vais te nommer Randall Grichuk parmi les joueurs qui répondent aux attentes offensivement en début de saison. Mais pour les autres, c'est difficile. T'sais, Roddy Telez se reprend, mais il a connu un début de saison exécrable. Alejandro Kirk a de la difficulté à recréer sa magie de 2020. Kevin Biggio, c'est mollo aussi ce qui se passe de son côté. J'aime pas ce que je vois de Lourdes Gurriel Jr. depuis le début de la saison, autant offensivement que défensivement. Donc, ça fait en sorte que ces jeunes-là sont en apprentissage, puis c'est correct. Mais quand tout le monde est dans un slump en même temps, puis quand tu as George Springer qui est absent, puis quand tu as Teoscar Hernandez qui a la COVID-19, ça fait en sorte que tes options sont de plus en plus limitées. puis il faut que tu te redresses sur des gars comme Davis dans le champ ou Josh Palacios, par exemple, qui ne sont pas des vilains joueurs, mais qui ne devraient pas être des partants pour une équipe comme les Jets.
Mm-hmm. Tu as parlé de Kevin Biggio, justement. Il y avait un super article que vous avez écrit cette semaine sur ça va être quoi le rôle de Kevin Biggio dans l'avenir des Blue Jays, mm-hmm. surtout défensivement, où est-ce que quel rôle il va prendre? Est-ce qu'il va rester un joueur de troisième but étiqueté comme ça, ou est-ce qu'il va prendre du galon puis je sais pas, bouger un petit peu? Est-ce que présentement, justement, avec le début de saison, on veut pas trop bouger les joueurs, tu sais, pour les déstabiliser, puis on s'assure que le côté offensif reviennent tranquillement. Est-ce que ça vient pas bloquer un peu cette perspective-là envers lui?
Ben écoute, Kevin Biggio, c'est un dossier qui est un peu complexe pour moi parce que il semble pas être la priorité des Jays présentement, comme peut l'être un Bo Bichette et comme peut l'être un Vlad Guerrero Jr. Et c'est normal parce qu'il frappe moins. Puis tu sais, un gars comme Vlad Guerrero qui frappe pour 300 quelques, qui s'approche même du 400 quelques, tu vas y faire de la place dans l'alignement. Puis si on réalise que c'est au premier but que c'est plus facile pour lui, ben, ils vont tasser ce qu'ils ont à tasser. Ça va créer un trou au troisième, on s'en fout, parce que Vlad produit au premier, puis ils ne toucheront pas. Même chose pour un Bo Bichette, on lui a donné des outils pour essayer que ça fonctionne à l'arrêt court. Moi, je ne pense pas qu'à long terme, ça va être la solution, mais bref, on essaie de travailler vraiment avec lui. Et c'est différent d'un Kevin Biggio où on dit, ben, toi, tu es un joueur de deuxième but, mais là, il y a Marcus Semien, fait que va jouer au troisième. Ça ne fonctionne pas au troisième parce qu'il n'y a pas le bras pour jouer au troisième but. C'est périlleux, les relais de là-bas. Il peut être dépanné, mais il ne peut pas être un joueur de troisième but en tant que tel qui va jouer plus de 100 matchs à cette position-là. Et là, il est un peu pris là parce que dans le champ, il n'y a pas de place pour lui. Il n'y a pas de place ailleurs dans l'avant-champ. Donc, s'il continue à ne pas frapper comme ça et que les jeunes poussent et que les joueurs de champ reviennent, moi, dans quelques années, je me demande où ce gars-là va jouer. Et s'il ne se met pas à frapper bientôt, j'ai l'impression qu'il pourrait vraiment être étiqueté comme un joueur de banc que Charlie Montoyo peut placer un peu partout dans son échiquier. Mais ça, c'est vraiment plus à long terme. Pour l'instant, la priorité pour Biggio à court terme, c'est d'essayer de bien fonctionner au troisième but, de prendre du galon offensivement et de se rendre indispensable. Parce que c'est ça au baseball, quand tu es un jeune qui pousse, faut que tu trouves une raison pour te garder dans l'alignement. Et la question n'est pas pour 2021 ou 2022, parce que ce gars-là a assurément sa place. Mais quand il y a d'autres joueurs qui vont arriver, quand il y a des jeunes comme Austin Martin, comme Jordan Groshans qui vont pousser, si les Jays essayent d'aller signer un agent libre, si on effectue une transaction dans les prochaines années et que là, il y a des joueurs en trop, ben, je peux te le dire, sinon, c'est pas Vlad Guerrero qui va écoper, puis c'est pas Bo Bichette. Donc, ça va prendre quelqu'un qui écope quelque part. Et si Biggio se rend pas, ce fameux joueur indispensable-là, malheureusement, ça pourrait être lui. Puis si on se fait à son début de carrière où, oui, c'est un joueur qui se rend sur les sentiers, mais qui n'arrive pas à placer la balle en lieu sûr assez souvent, moi, je vais te dire que je commence à m'inquiéter un peu pour lui.
Est-ce qu'il pourrait faire partie, par exemple, d'un appât pour justement regarnir la butte un peu, la rotation des lanceurs partants? Est-ce qu'à un certain moment donné, je sais qu'il est tôt dans sa carrière, mais ça pourrait-tu être une monnaie d'échange selon toi, en assumant qu'on a des pions qu'on ne peut pas vraiment déplacer dans cette formation-là?
Écoute, ça peut changer, mais moi, ma réponse pour l'instant, je pense que c'est non. Parce que c'est un joueur qui est très, très, très apprécié. Et ouais. Ça, évidemment, le petit take que j'ai fait, c'est vraiment de son point de vue à lui. Parce que du point de vue de l'équipe, tu veux un gars comme ça qui est capable de jouer partout, qui est un frappeur gaucher. Tu sais, c'est un joueur qui est quand même important, mais peut-être qu'au cours des prochaines années, il va devenir plus important dans une mesure où c'est un joueur qui ne joue pas 162 matchs par année ou pas 162 matchs complets, là, tu sais, qui n'est pas un partant tous les jours. Donc, non, je ne pense pas que les Jays ont l'intention de l'échanger parce que ça prend un gars comme ça pour aller loin. Mais c'est vraiment pour lui, est-ce qu'il veut devenir vraiment un partant dans le baseball majeur à une position fixe? Je pense que oui. Puis si c'est le cas, ben, je pense qu'il va vraiment devoir prendre des bouchées doubles. Surtout que, tu sais, je le disais, Bo Bichette, je pense pas que ça va être un joueur d'arrêt-court à long terme. Je pense qu'on va le tasser au deuxième but.
On l'a vu justement cette semaine, Bo Bichette qui a fait des erreurs, tu sais, qu'un joueur d'arrêt-court va faire de routine, des jeux de routine, tu sais.
Ben écoute, Bo Bichette et Kevin Biggio du côté gauche de l'alignement, moi, à chaque fois que la balle est frappée à gauche de l'avant-champ, je retiens mon souffle parce que je ne sais jamais si la balle va se rendre. Puis moi, je suis assis dans mon salon. Là. Fait que, tu sais, Charlie Montoyo, il doit pas trouver drôle. Je pense qu'il y a un cheveu gris supplémentaire à chaque fois que la balle est frappée là.
C'est pour ça qu'il n'est jamais assis dans l'abri.
Non, c'est ça, il pourrait même pas. Fait que c'est pour ça que je pense que Bo Bichette est appelé à jouer au deuxième but éventuellement. Puis Les Jays ont deux jeunes joueurs d'arrêt-court, Austin Martin, Jordan Groshans, qui vont percer dans les majeures, qui sont des bons joueurs. J'en vois un, possiblement Martin à l'arrêt-court, puis Groshans au troisième. Ils ont plus le profil du genre, mais ça demeure pas moins que si on ajoute des joueurs autonomes en plus ou des transactions, ça laisse pas beaucoup de place pour Biggio pour jouer à temps plein. Et c'est vraiment pour lui, je me dis, s'il veut être un partant, il doit absolument se mettre à frapper. Là. Il a pas le choix parce que c'est sa troisième année dans les majeures. Il faut commencer à espérer des résultats de son côté, un peu plus que d'espérer de s'approcher de la Mendoza Line, la frapper pour deux.
On a parlé de Nate Pearson un petit peu vaguement. Nate Pearson, est-ce que tu sais à peu près c'est cédulé pour quand son retour dans l'alignement?
Ben, Nate Pearson, ça fait à peu près une semaine que ce qu'on raconte du côté de Toronto, c'est qu'il est en santé. Le seul problème en ce moment pour Nate Pearson, c'est que, en fait, s'il était un releveur, on pourrait le voir dans la formation parce qu'il en serait une manche. Mais là, présentement, on considère un peu qu'il est au camp d'entraînement, si tu veux. On est au milieu du mois de février, vers la fin février, début mars. Il faut construire son lanceur, donc construire son bras, s'assurer qu'il soit en mesure de lancer plus qu'une ou deux manches. Donc, présentement, il en est à l'étape de lancer un match simulé de 2-3 manches, attendre 5 jours pour en lancer un de 3-4, attendre 5 jours pour en lancer un de 4-5. La bonne nouvelle, évidemment, c'est qu'il est en santé et qu'on n'a pas entendu là, de step back. Donc, on n'entend pas des échos comme quoi qu'il n'est plus en santé. Là, c'est vraiment juste une question de s'assurer quand on va l'insérer dans l'alignement, est-ce qu'il est en mesure de faire la distance et de lancer quelques manches consécutives? C'est vraiment ça le problème présentement. Mais j'ai confiance qu'au cours, là, peut-être, des 10-15 prochains jours, j'ai l'impression qu'on pourrait voir Nate Pearson là, dans la rotation des Jays.
Parce qu'avec ce que Steven Matz a montré depuis le début de l'année, là, ce qu'on savait pas qu'on avait avec les Blue Jays, c'est devenu plutôt évident qu'on a un trio de lanceurs partants super intéressant avec Ryu, Matz et Pearson. Ce qu'on savait pas tant que ça, finalement, au début de la saison.
Ben non, c'est ça. Tu sais, Matz, on savait pas à quoi s'attendre parce qu'on sait que c'est un lanceur qui a du potentiel. Il a été bon à ses débuts à New York et tout, mais est-ce qu'il était capable de recréer cette magie-là? Et là, oui, ça fait juste 3 départs de son côté, mais la réponse, c'est oui. Il a été excellent depuis le début de la saison. Il est fiable, un lanceur gaucher en plus, donc ça vaut encore plus de l'or pour les Jays de Toronto. Ça revient un peu à ce que je disais, là. Je ne sais pas si je te l'avais dit à toi ou sur quelle plateforme je l'avais dit, mais un des besoins intéressants que les Jays avaient besoin, c'était vraiment d'aller chercher un lanceur numéro 2. Parce qu'on sait du côté de Toronto qu'on a un lanceur numéro 1 en Andrew Ryu. On sait que Nate Pearson, un jour, peut être un lanceur numéro 2, voire même un lanceur numéro 1 s'il se développe bien quand Ryu va partir. Mais à court terme, en 2021, avec la blessure de Pearson et le fait que c'est encore une recrue, on ne savait pas s'il allait être en mesure de combler ce poste de numéro 2-là. Et si Steven Matz est en mesure de le faire, ce qui visiblement est le cas, et que Robbie Ray, Nate Pearson peuvent être les lanceurs numéro 3, numéro 4, et qu'après, il te reste juste un départ sur 5 à combler, bien là, c'est une maudite bonne nouvelle du côté de Toronto parce que tu t'assures vraiment d'avoir un personnel de lanceurs solide pour affronter une équipe comme par exemple les Yankees de New York ou les Rays de Tampa Bay, les Red Sox de Boston dans ta division, te dire « j'ai un affrontement de 4 jours avec eux, j'ai pas 3 points d'interrogation en 4 jours ». Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Tu peux avoir un point d'interrogation de journée donnée quand c'est ton 5e partant qui lance, mais tu peux pas en avoir autant quand t'espères faire les séries.
Ça sera pas Tanner Roark, en tout cas, parce que lui, il s'est tiré dans le pied pas plus solide.
Ah, ça a été compliqué. Hein? Puis on dirait en 2020, on l'a vu lancer, puis à chaque fois, on se dit « Ah, mon Dieu, ça finit-tu ce départ-là? » Puis on s'est dit « En 2021, ça peut être un nouveau départ. T'sais, la saison est courtée. » Tu sais, moi, il y a beaucoup de joueurs qui ont connu des mauvaises saisons en 2020, puis tu leur n'en tiens pas rigueur, parce que tu sais pas ce que ces gars-là ont vécu. Puis surtout, avec les Jays, où est-ce qu'ils ont été parachutés dans un hôtel à Buffalo, qui ne savaient pas où est-ce qu'ils allaient jouer. T'sais, ça a été vraiment compliqué pour les Jays. Donc, tu te dis peut-être que ça peut affecter le gars. Et là, tu arrives en 2021, puis encore des mauvaises performances, puis tu te dis, ben écoute, non. Puis ça n'a pas pris de temps pour les Jays. Ils n'ont pas laissé beaucoup de corps dans un départ, puis ils ont fait, non, c'est terminé. Ouais, prendre la direction de l'enclos, même s'il y avait des blessés. Donc, ça prouve que les Jays ont perdu patience. Et d'envoyer un gars qui gagne 12 millions dans l'enclos, là, Simon, c'est parce que tu es allé.
Ouais, définitivement. Là. Écoute, tu m'as bien lancé sur une belle piste en parlant des Red Sox, des Yankees, des Rays, la fameuse division. Moi, écoute, je traduis toujours ça de cette manière-là. Depuis le départ des Expos, les Québécois se sont lancés sur la division Est de l'Américaine. Et c'est les chouchous. Peu importe pour qui tu prends, là, tu sais. Mais avant, c'était Yankees, Red Sox. Maintenant, on a plein de fans des Rays. Je sais pas pourquoi. Mais il y a plein de fans des Rays ce qu'ils ont poussé dans cette division-là. Et le début de saison de la division est complètement fou. Les Red Sox, qu'on n'attendait pas tout à fait, tu sais, en tout cas pas au sommet de cette division-là, qui sont tout feu, tout flamme, et les Yankees, qui on s'attendait possiblement à gagner cette division-là, en bas de classement, pire fiche du baseball majeur en date de là. Donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Écoute, c'est une question qui est chargée. Du côté de Boston, tu regardes la formation sur papier puis tu te dis, le grand problème de cette formation-là, c'est qu'ils n'ont pas de profondeur. Puis tu sais que ça te prend ça pour gagner au baseball, mais tu te dis, si les partants fonctionnent bien, tu as le potentiel d'avoir une belle équipe. Parce que tu regardes, tu as Christian Vasquez derrière le marbre, tu as Raphaël Devers au troisième but, tu as Xander Bogaerts à l'arrêt court. Déjà là, tu as trois belles certitudes. Tu ajoutes un Bobby Dalbec au premier but qui est un bel espoir. Tu ajoutes un Alex Verdugo dans le champ, un J.D. Martinez comme frappeur de choix. Ça fait en sorte que tu as une belle équipe. Et tu te dis, ben, si ces gars-là sont en forme en même temps, ça peut marcher. Le problème, c'est si tu es obligé d'en sortir un à cause d'une blessure et que là, tu amènes un Christian Arroyo, mettons, qui là est un partant au deuxième but, mais qui est en théorie dans une bonne équipe, devrait être un joueur de banc. Tu amènes ce gars-là, par exemple, ça fonctionne pas. Kike Hernandez est trop brassé un peu partout, ça marche pas. Ben là, tu sais, c'est dans des cas comme ça que tu dirais, hey, c'est compliqué. Mais présentement, tout fonctionne. Donc, Alex Cora regarde ça, il touche du bois, puis il se dit, on va espérer que ça continue. C'est la même chose du côté de la rotation. Nate et Ovaldi en santé, ça fait toute la différence. Et même si Chris Sale n'est pas là, ça fait en sorte que ce gars-là peut tenir les rênes avec Eduardo Rodriguez de cette rotation-là. Tu peux amener le jeune Tanner Rook au besoin quand tu as besoin d'un partant supplémentaire. Et la relève, présentement, la plupart des gars font un bon travail. J'aime beaucoup ce que je vois de Matt Burns présentement. Donc, tout ça en sorte, ça fait en sorte que c'est un équilibre qui est fragile en ce sens où s'il y a deux, trois gars qui se blessent, comme je dis, il n'y a pas la profondeur pour aller plus loin. Mais dans l'optique où ça reste comme ça, Alex Cora regarde ça et il se dit, on a une belle équipe quand même sous la main, puis on va essayer d'engranger le plus de victoires possible avec les éléments qu'on a pour justement éviter que le jour inévitable où les Yankees vont se relever.
Ça va arriver. Ça, il faut se le dire. Là. Je veux dire, cette équipe-là, c'est impossible qu'elle demeure dans les bas-fonds du baseball majeur. Là.
Non, c'est ça, exactement. Les Yankees, eux, ont la profondeur justement pour se relever, mais en ce moment, même la profondeur fonctionne pas. Puis, il y a des problèmes fondamentaux, tu sais, du côté de New York. Pour moi, deux des grands problèmes que je vois, c'est qu'au niveau défensif, on n'est pas capable de confier le poste d'arrêt-court à quelqu'un d'autre que Gleyber Torres, et on a de la difficulté à donner le marbre à quelqu'un d'autre que Gary Sanchez. Donc, je ne sais pas pourquoi on n'utilise pas Kyle Higashioka plus souvent. C'est un receveur que j'aime bien, qui, quand son temps de jeu, arrive à bien frapper, puis on l'a vu, là, il y a quelques circuits déjà à son actif, notamment contre les Jays, et c'est le receveur personnel maintenant de
Garrett Cole. Ouais, c'est ça que j'allais dire.
J'aimerais le voir jouer plus là, dans l'optique des partisans des Yankees de New York. Mais le vrai problème, c'est ça. C'est Gleyber Torres, présentement, on dirait qu'on ne sait pas comment bouger les pions parce que l'arrêt court, c'est un poste clé et quand tu ne peux pas le combler comme il faut, ben ça fait en sorte justement que la balle va finir par te trouver. Puis on dirait que la balle est toujours frappée à l'arrêt court à un Gleyber Torres qui ne sait pas quoi faire, qui a de la misère à remettre au premier but. Et ça l'affecte offensivement. On l'a vu hier, a décidé de ne pas courir sur les buts. Donc tu vois que ce gars-là commence vraiment... il a la tête trop remplie présentement. Il va falloir qu'il se vide les esprits un petit peu pour que ça fonctionne. Et le reste de l'alignement, pendant ce temps-là, ne fonctionne pas. On sait que c'est soit les circuits ou les retraits sur des prises chez les Yankees, mais en ce moment, c'est soit les retraits sur les prises ou les retraits sur les prises. Il n'y a rien d'autre qui se passe. C'est le festival du strikeout pour les lanceurs adverses. On dirait qu'ils sont vraiment sur une pente descendante et il n'y a rien qui arrive à les relever. Les lanceurs, il y a eu beaucoup de paris qui ont été pris derrière Garrett Cole et ces paris-là ne rapportent pas présentement. Donc, tout ça fait en sorte que on s'enlise du côté du Bronx, on continue de descendre et ça va prendre à un moment donné un électrochoc. Là. Je ne sais pas ça va être quoi, évidemment, mais parce que si eux autres aussi, s'ils savaient, ça arriverait. Mais présentement, il n'y a rien qui se passe et il va falloir vraiment justement d'avoir ce coup de barre-là, de se dire « OK, il faut changer quelque chose ». Puis c'est pas juste de brasser l'alignement puis de mettre Clint Frazier au premier rang puis au deuxième rang puis au quatrième rang puis au huitième rang de l'ordre des frappeurs qui va changer quelque chose. Je sais pas c'est quoi, mais comme je te dis, j'ai l'impression que le jour où les Yankees vont accumuler les victoires, je pense que Gleyber Torres va jouer un petit peu plus régulièrement, soit au deuxième but comme frappeur de choix, parce que à l'arrêt-court, il cause trop de retraits là, présentement. Tu sais, d'avoir des manches de 4-5 retraits parce que ton arrêt-court n'est pas capable d'aller chercher un retrait, que ça cause une erreur et que la manche se continue, ça finit par faire mal sur le cours de route.
On a parlé, je sais pas si tu te souviens, on a parlé au début, là, notre spécial baseball qu'on avait fait au début, avant la saison régulière. Puis on avait parlé que les Orioles n'allaient pas être là du tout cette année, puis ça, c'est bien normal, mais que cette équipe-là était en train de construire de la bonne façon avec des choix au repêchage, etc. Est-ce que tu vois déjà une petite étincelle dans cette équipe-là?
Oui, il y a une certaine étincelle. Tu sais, c'est pas une saison à tout casser présentement chez les Orioles, mais ils arrivent quand même à tenir leur bout dans certains matchs. Puis tu sais, on voit pas l'équipe se faire déclasser, ce qui est quand même une certaine victoire présentement. Mm-hmm. Surtout compte tenu que tu sais, il y a quand même des gros adversaires. Il y a eu les Red Sox justement, tu sais, qui ont bien fait lors de la première série de la saison contre les Red Sox de Boston. Il y a des gros adversaires dans l'Est de l'Américaine, mais dans l'Américaine en général aussi. Là, il y a des formations qui sont pas commodes, là, qui passent par Baltimore et qui vont passer aussi au cours de l'année. Donc oui, j'aime ce que je vois présentement. C'est pas extraordinaire, mais on s'attendait pas à des miracles non plus.
Définitivement pas, mais là où on s'attendait à un gros bang, c'est de l'autre côté, dans la nationale, avec les Dodgers et les Padres. On a eu droit à déjà un avant-goût, un premier bain, si on veut, la fin de semaine passée, où est-ce que les Dodgers et les Padres s'affrontaient. En fin de semaine, c'est la deuxième série entre les deux équipes. À date, j'imagine que t'es pas déçu, puis c'est un peu à ce à quoi on s'attendait entre ces deux équipes-là, qui sont, ma foi, du bon lieu. Nanti au monticule comme jamais, puis à peu près partout finalement.
Écoute, moi, l'anecdote que je pense que je vais utiliser toute l'année, là, c'est au premier match entre les deux équipes, t'es en 12e manche. Tu te retrouves avec Jake Cronenworth, qui est un joueur de deuxième but, sur le monticule, qui lance à David Price, un lanceur qui est au bâton parce que t'as plus de frappeur suppléant. Et qui frappe la balle à Joe Musgrove, un lanceur partant qui a été honoré pour son match sans point de coup sûr en début de soirée, que lui, il avait deux pieds sur le couvre, puis il s'est dit « Ah, ça va être une belle petite game ». Puis tout d'un coup, il s'est fait dire par son gérant « Hey, mon homme, on n'a plus personne pour jouer dans le champ, on n'a plus de frappeur suppléant, va dans gauche, on va espérer que tu n'aies pas de balle, puis au pire, tu te feras striker quand tu iras au bâton ». Tu sais, on en était là, dans ce match-là, tellement toutes les ressources avaient été utilisées. Puis pour moi, ça a vraiment donné le ton à ces séries-là. Puis tu sais, tu le vois là, que les gars veulent gagner. Puis Fernando Tatis Jr., il est revenu cette journée-là. Ouais. Tu sais, pour la prochaine série, tu vois, Mookie Betts, il n'est pas à 100% en début de saison. Il manque des matchs, mais il manque aucun match contre les Padres. Tu sais, il a joué contre les Padres, il a manqué des matchs cette semaine. Puis ce soir, qu'est-ce que tu sais? Mookie Betts va être à son poste dans le champ droit. Donc les gars, vraiment... Tu le sens que l'animosité aussi commence à monter, les bancs se sont vidés. On en parle dans les médias. Quand c'est ces journées-là sur mon fil Twitter, j'en vois beaucoup de Dodgers puis de Padres puis des analystes qui mettent la table puis des commentaires de Fernando Tatis. Et c'est bon pour le baseball puis je trouve ça super intéressant. La seule chose qui est dommage évidemment, c'est que la plupart de ces matchs-là sont tard en soirée.
Ouais.
Mais tu sais, il va y avoir des matchs un peu plus tôt. Puis tu vois, dimanche soir, c'est le match du dimanche soir, le Sunday Night Baseball. Donc il va être à une heure un peu plus raisonnable. C'est juste bon pour le baseball, Simon, là, cette rivalité-là. C'est fantastique ce qu'on voit.
C'est pas moi que t'as besoin de convaincre de ça. Moi, je l'avais collé d'avance. Je manque pas de match. Puis, même rendu en 12e manche l'autre soir, j'étais comme, OK, là, ça a pas de sens, là. Il y a des ligues de garage qui sont mieux organisées que ça, là. Tu sais, un lanceur qui joue dans le champ, come on. Donc, même ça, je le manque pas. Es-tu surpris du quand même pas pire début de saison des Giants dans cette division-là?
Est-ce que je suis surpris? Oui et non. Non, parce que tu le vois qu'ils ont quand même une belle équipe, tu sais, qui ont des bons vétérans pour entourer les jeunes, qui ont du potentiel quand même là-bas. Mais oui, parce qu'ils évoluent dans une division qui n'est pas facile. La nationale, il y a quand même des grosses équipes et je m'attendais pas à ce que la sauce lève à ce point-là du côté des Giants de San Francisco, qui sont présentement, là, si je me trompe pas, devant les Padres au classement. Mm-hmm. Donc, je m'attendais pas à un aussi beau mois d'avril, pardon, là, du côté de San Francisco. Mais c'est intéressant puis ça vient pimenter la rivalité aussi parce que on l'oublie, là, mais on parle beaucoup de Los Angeles-San Diego, mais Los Angeles-San Francisco, quand les deux équipes sont au sommet, là, c'est l'équivalent des Yankees et des Red Sox dans le National.
Ouais, c'est vrai, on oublie ça par bout. Même que moi, j'étais à un certain moment donné, j'étais fan des deux équipes. Genre, j'avais une casquette des Dodgers puis une casquette des Giants, puis j'alternais des fois. Ça, tu peux pas faire ça. Mais en fait, tu peux pas faire ça aux États-Unis. Au Canada, ça se remarque à peine. Fait que c'est pas pire.
À Gatineau, c'est moins pire que si tu le fais en Californie.
Définitivement. Définitivement. Dernier sujet que je voulais jaser avec toi. Bon, il y a une ligue qui s'appelle la Ligue Frontier, OK, qui était, ben, en fait, qui regroupe des équipes de la défunte CANAM, là, donc, dont faisaient partie les Champions d'Ottawa, les Capitales de Québec, les Aigles de Trois-Rivières, tout ça. Donc, il y a eu ben, si on veut, un merge avec des équipes de la défunte CANAM et la Ligue Frontier qui existait déjà aux États-Unis, en fait. Et c'est du baseball indépendant, mais là, on apprenait cette semaine que, bon, une équipe du Québec allait être formée avec des joueurs des Capitales et des Aigles de Trois-Rivières. On a appris justement sur Passion MLB cette semaine que l'ancien joueur des Blue Jays allait se joindre à cette formation-là. Je parle de Dalton Pompey. Ceux qui connaissent pas Dalton Pompey, il jouait avec les Blue Jays là peut-être 3-4 ans, si je me trompe pas.
Ouais, même moi. Ça, je pense que jusqu'en 2010. Ouais, 3 ans. Je pense qu'il a joué jusqu'en 2018.
Ouais. Je pense. Puis là, il a signé un contrat avec les Capitales de Québec, mais ça lui donne l'option, justement, ça donne l'option aux Capitales de l'amener dans cette formation-là. Qu'est-ce que tu penses de cette ligue-là en partant? Parce que moi, pour avoir vu beaucoup de matchs des Champions d'Ottawa, c'est une bonne ligue de balle, ça, là. Puis là, les gens, des fois, ils vont penser que le baseball indépendant, c'est vraiment loin de la MLB. J'ai vu tous les commentaires, là, cette semaine. Dalton Pompey, c'est vraiment la descente aux enfers. Mais si on se souvient bien d'un certain Wilmer Font qui a joué, justement, avec les Champions d'Ottawa, qui s'est taillé un poste avec les Blue Jays à un certain moment donné. Fait que c'est pas si loin que ça, le calibre, là, en fin de compte.
Non, c'est ça, c'est possible de remonter. Puis, si c'était si bas que ça, des gars comme Philippe Aumont ou comme Éric Gagné ne seraient pas venus jouer dans le CANAM non plus. Là, quand même, là, c'est rendu la Ligue Frontière, mais c'est des niveaux similaires. Non, c'est du beau calibre qu'il y a. Puis moi aussi, j'ai eu la chance d'aller voir un match là, des champions là, dans le temps que j'habitais là, dans la région d'Ottawa-Gatineau là, pour l'école. Donc, non, c'est bien ce qui se passe de ce côté-là. Puis, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler pour cette équipe québécoise-là parce que, bon, l'équipe va commencer la saison aux États-Unis. Là, on le sait, si les Blue Jays ne peuvent pas revenir à Toronto, ben, cette équipe-là ne pourra pas revenir au Québec là, à faire des allers-retours. Ce que Michel Laplante espère, lui, c'est que, bon, éventuellement, à partir de juillet, peut-être à août au pire, l'équipe va être en mesure de venir jouer ses matchs à domicile à Québec et à Trois-Rivières. Ce serait une belle victoire pour justement ces joueurs-là de revenir à la maison au lieu de passer l'année sur la route. Là, ça serait compliqué. Mais pour ce qui est de l'effectif en tant que tel, c'est ça. Tu l'as dit, ça va être composé des joueurs canadiens qui jouent pour les équipes du Canada. Et il va y avoir un gars comme Dalton Pompey, qui a été principalement un frappeur suppléant chez les Jays, mais on l'utilisait beaucoup sur sa vitesse, un excellent joueur de champ-centre défensif. Et il n'y avait peut-être pas le coup de bâton pour jouer dans les majeures, mais il y a assurément le coup de bâton pour jouer dans le baseball indépendant. Donc, ça va être intéressant. Il va amener une bonne dose d'expérience sans prendre une des trois places de vétérans. Tu peux juste avoir trois vétérans en tant que tels qui remplissent certaines conditions dans une équipe. Lui ne les remplit pas, mais dans les faits, ça va être une vraie présence de vétérans pour les joueurs. Et Patrick Scalabrini, qui est le gérant de l'équipe, lui, il est très content parce qu'il va pouvoir l'utiliser comme un premier frappeur. Tu sais, un gars qui se rend souvent sur les sentiers, qui peut voler le deuxième but, voler le troisième, rentrer au marbre quand les canons le font rentrer derrière lui. Donc, c'est une très, très, très belle prise et ça donne la crédibilité justement à cette équipe-là de dire « Hey, il y a un ancien des Blue Jays de Toronto, deux anciens parce qu'il y a Gift Ngope qui est un ancien joueur d'utilité aussi qui a joué à Pittsburgh et à Toronto. »
Je ne l'avais pas nommé, je n'étais pas capable de dire son nom.
Mais je vais t'avouer que je ne suis pas certain à 100% de la prononciation. Je me suis fié à Baseball Reference. Il y a toujours une petite section là, à côté de son nom où est-ce que ça dit en anglais comment le prononcer. Donc, je ne peux pas t'assurer que j'allais comme il faut, mais j'espère lui avoir rendu justice. Donc, d'avoir deux gars comme ça qui ont joué à Toronto, qui ont joué dans les majeures, qui vont jouer pour cette formation-là, mais ça donne un sérieux coup de crédibilité.
Définitivement, et j'ai hâte de voir le calibre de cette ligue-là, parce que veux pas, tu merges deux bonnes équipes, là, les Capitals puis les Aigles, c'était pas des deux de pique au moment de la dissolution de la Ligue Can-Am. Là, tu merges ces deux formations-là, ça peut être intéressant en tabarouette à suivre. Je sais pas, je pense que là, les matchs vont être diffusés sur Internet, mais ça va valoir la peine d'y jeter un coup d'œil puis de voir comment Pompey s'en tire. Puis il y a certains joueurs là-dedans qui pourraient faire le saut dans le baseball majeur, là, je l'ai dit, mais ça peut arriver. Là, donc, surprenez-vous pas de ça là, si ça arrive. Là, si vous voyez des talents là-dedans, il y a des possibilités quand même. Là, le baseball indépendant aux États-Unis, c'est très fort. Puis, il y a quasiment plus de monde qui vont voir le baseball indépendant qu'il y a de monde à Dunedin en ce moment pour voir les Blue Jays. Là. Fait que, c'est vrai pareil. Ouais, ouais. Donc, ouais, c'est ça. Ben, écoute, Charles-Alexis, merci pour cette première dans Zone Neutre 100% sport. À chaque semaine, on va avoir du monde de ta gang. Si c'est pas toi, ça va être un de tes chroniqueurs, un de tes collaborateurs. Exact. Tout du monde super intéressant. On peut vous suivre d'ailleurs présentement là, au 91.9 Sport dans la section podcast. J'ai vu que vos audios étaient là aussi. Donc, ceux qui s'intéressent d'aller voir un peu ce que vous faites, là, c'est vraiment super intéressant. Puis d'ailleurs, tu es un excellent animateur, je voulais te le dire. Et merci pour le petit partenariat qu'on a ensemble. Ça va être cool de jaser de balle tout au long de l'été avec vous autres.
Yes, ben merci beaucoup à toi, puis j'ai hâte justement là, d'avoir la chance, comme je t'ai dit, là, d'avoir la chance d'avoir une plateforme supplémentaire, de jaser de balle avec toi. Tu le vois, la passion du baseball, elle se communique comme ça, puis d'avoir la chance de la partager, ben c'est le plus beau des cadeaux.
Ben cool, ben merci Charles-Alexis, puis on se rejase dans pas tellement longtemps.
Parfait, merci beaucoup.
All right, ciao.
Salut.
Yes, I'm back. Yes, j'espère que vous avez aimé ça. Là, je rappelle la question du jour parce qu'il y a une petite question du jour. On parle pas de hockey en ce moment, mais c'est pas grave. La question du jour est autour du hockey. Je vous présente ça tout de suite. La question du jour, est-ce que Patrick Marleau s'en va direct au temple de la renommée de la LNH? Lui qui est maintenant l'homme de fer de la Ligue nationale ou l'homme qui a disputé le plus de matchs avec 1768 matchs. Total, dépassé Gordie Howe cette semaine. Donc, est-ce que ça fait de lui est-ce que ça lui donne un billet direct pour le temple de la renommée? Dans les commentaires, allez-y, je veux voir qu'est-ce que vous en pensez. Je vais essayer de mettre des questions comme ça. Puis si jamais vous avez des idées de questions du jour, pour le show, tout ça. Gênez-vous pas, envoyez-moi des suggestions. Si vous voulez jaser de n'importe quoi sous les plateformes, là, que ce soit YouTube, toutes les pages Facebook où on est diffusé, même Twitch, si vous nous écoutez sur Twitch, allez-y, je vous écoute. Envoyez-moi des commentaires sans problème, je veux vous entendre. Peu importe ce que vous avez à dire, je veux vous entendre, je vais être là pour vous jaser. On a eu des commentaires, là, Christian qui nous a dit bravo au départ, puis tout ça, là, même si c'est juste des commentaires comme ça. Allez-y, on veut vous entendre. On se dirige vers la deuxième portion de ce show-là. On va jaser de football. Puis, quand j'ai parlé de partenariat avec Passion MLB, on va avoir le même type de partenariat pour des collaborateurs au niveau du football, que ce soit de la NFL, que ce soit de la CFL, que ce soit juste de l'actualité au niveau du football, des signatures, le repêchage, peu importe. On va essayer de couvrir pas mal tout ce qui se passe. Et qui de mieux pour parler de football que ma référence à moi pour le football? Et j'ai nommé Attitude Football et Renaud Bourbonnais. Salut mon Renaud! Renaud, comment ça va?
Ça va bien, Simon, toi?
Ça va super bien. Là, ceux qui, pour les plus perspicaces d'entre vous là, qui nous écoutent, vous pourrez peut-être voir que Renaud se trouve au même endroit que Charles-Alexis. Donc,
exact.
Vous êtes des colocs. Ben oui, voilà. C'est ça. That's it. Ça doit jaser de sport pas pire chez vous, pareil?
Pas pas mal, ça en regarde pas mal tout le temps, je te dirais aussi.
Hey Renaud, merci premièrement d'être là. Merci de faire partie de la première émission 100% sport de En Zone Neutre. Tu vas être un collaborateur régulier. Et exact. Avec ta gang, tu sais, on va entendre tes chroniqueurs, tes collaborateurs aussi sur le podcast, parce que tout comme Charles-Alexis, tu as une belle plateforme, justement. Parle-nous un petit peu.
Ouais, ben écoute, Attitude Football, on a lancé ça au mois de mai dernier. On est un peu sur le même modèle que Passion MLB avec le baseball. Donc, information, football, on est très NFL, très LCF. On essaye d'en faire le plus possible du collégial universitaire américain. Bon, évidemment, dans le moment, là, avec l'approche du repêchage dans une semaine maintenant, c'est sûr et certain que là, on en a parlé beaucoup ce mois-ci. Mais l'an prochain, on aimerait ça, pendant la saison, là, essayer d'en parler un peu plus pendant la saison de la NCAA, donc, et du football universitaire canadien, si on peut en avoir.
Vous avez aussi, tout comme Passion MLB, un segment sur le 91.9 Sport. Est-ce que vous avez une émission régulière? Je me souviens pas. T'es-tu là
avec,
toutes les semaines?
Pas avec non, Attitude okay. Football, parce qu'en fait, c'est qu'il y avait déjà une émission de football avant que cette histoire-là arrive. Donc évidemment, on pouvait pas là, aller remplir les ondes de football, malheureusement.
Ben, c'est correct. De toute façon, vous avez vos chroniques un petit peu partout, mais tu as aussi un podcast, Attitude Football, donc qu'on peut suivre Facebook, YouTube et en audio aussi sur Google Podcast.
Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, un peu partout.
Bon, ben cool. La présentation est faite. De toute façon, pour ceux qui sont habitués du podcast, vous connaissez déjà Renaud parce qu'on a jasé de football pas pire depuis le début du podcast. Et bon, là, on jase un peu de foot, c'est sûr. Là, c'est la saison qu'on appelle morte pour ceux qui connaissent pas le football, mais il se passe quand même pas mal d'affaires. Cette semaine, on apprenait justement par ta plume la signature ou la prolongation de contrat de Mike Tomlin avec les Steelers. Moi je suis mon football là. Je vais t'avouer, je le suis sur Attitude Football. Fait que ce que je sais de ce qui se passe dans la NFL, je le sais par toi. Mais il y a pas juste la NFL en ce moment, parce qu'il y a des tractations au niveau de la CFL aussi. La CFL qui a annoncé qu'elle allait repousser le début de la saison. Je pense que ça, c'est la grosse nouvelle qui est sortie cette semaine. Parle-nous un petit peu de ça. Ça va nous amener vers une Coupe Grey au mois de décembre. Où est-ce qu'il va faire fret plus que jamais?
Ben, exactement. À Hamilton, au mois de décembre. Puis, tu sais, les gens qui sont déjà allés voir les Bills de Buffalo, moi, j'y vais pratiquement à tous les mois de décembre. On n'a pas pu au dernier, l'an dernier en raison de la pandémie, mais il y a de la neige là à Buffalo. Puis Hamilton, c'est très près de Buffalo. Donc, on peut s'attendre là à ce que ce soit un méchant party, le match de la Coupe Grey le 12 décembre. Ça, c'est s'il y a lieu, hein, parce que la date, évidemment, du 5 août pour le début de la saison régulière, une saison de 14 matchs, n'est pas coulée dans le béton. On s'entend si la pandémie continue de faire rage, si on ne peut pas remplir un nombre dit important par la Ligue. On n'a évidemment pas identifié un pourcentage des stades. De toute façon, ce serait un peu bizarre de le faire, parce que tu as un stade à Montréal qui est d'un peu plus de 20 000 personnes. Tu as des stades pas mal plus grands, par exemple, à Edmonton ou à Vancouver. Donc, ce serait un peu difficile de dire un pourcentage. Mais pour l'instant, on s'en tient à ça. Pas beaucoup d'informations. On était supposé aussi hier recevoir des informations supplémentaires par rapport aux discussions avec la XFL.
Ben, parlons-en, j'allais te relancer là-dessus, mais la grosse affaire qui se passe en ce moment, c'est justement ça. Là. Est-ce qu'il y a vraiment des discussions? Est-ce que ça se peut, ça, ce merge-là, entre les deux ligues?
Ça, je peux pas te le dire, parce que même aujourd'hui, j'écoutais une entrevue du commissaire Randy Ambrosi, qui doit avoir été enregistré hier ou qui a été enregistré ce matin, peu importe, au podcast de Waggle. Puis, il essayait d'expliquer un peu qu'est-ce qu'ils font, mais dans les faits, on n'a pas donné plus d'informations que ce qu'on avait déjà, c'est-à-dire pas grand-chose. La LCF a débarqué il y a un peu plus d'un mois maintenant, un peu out of nowhere. Personne s'attendait à ça, là, excuse-moi, un peu en dehors de nulle part.
Tu peux parler en chinois si tu veux, Renaud. C'est pas grave que tu dises des mots anglais.
mais donc, est arrivé avec cette idée-là, pas cette idée-là, le fait qu'il y a des discussions. On sait pas quoi. On parlait avec des joueurs. Moi, j'ai fait un épisode de mon podcast avec Jean-Philippe Bolduc du Rouge et Noir d'Ottawa, qui est même représentant syndical de l'équipe. Il n'y avait aucune idée de l'a appris en même temps que nous quand on l'a appris sur Internet. Donc, est-ce que ça se peut? Écoute, si c'est la seule façon de sauver la Ligue, à un moment donné, les gens vont probablement s'y plier, mais il y a des choses qu'il va falloir accepter avec ça. Puis la première, c'est football à 3 essais, football sur des grands terrains. Si tu commences à jouer avec les États-Unis, c'est pas vrai que les gens de la XFL vont dire, ben écoute, on va jouer aux 3 essais puis on va essayer de faire découvrir ça aux gens. Et eux, leur but, c'est de rapidement aller convaincre les Américains qui ont un bon produit, puis les Américains, s'ils connaissent, c'est du football à 4 essais avec des terrains plus minces.
Ouais, parce qu'on en plus que ce qu'on peut dire de la XFL, c'est qu'on n'est plus dans la première mouture de la XFL. Il y a eu une saison qui s'est terminée malheureusement, qui s'est pas complétée, mais le football était complètement différent de ce qu'on avait vu au premier essai de la XFL, où est-ce que c'était Vince McMahon qui décidait, puis c'était complètement farfelu là, une course pour aller chercher le ballon. En tout cas, c'était complètement stupide là. Tu sais, il y a eu des blessures puis des niaiseries comme ça.
Ouais.
La deuxième vague là. Bon, je dirais pas deuxième vague, ça, c'est pas un terme qui est super approprié en ce moment. Mais la deuxième mouture de la XFL était complètement différente du football, plutôt intéressant.
Oui, ben, le commentaire qui sort souvent, puis c'est le fun parce que j'écoutais un podcast justement fait par des amateurs de la XFL il y a quelques semaines, qui disait le problème, c'est que le calibre de football, les joueurs étaient bons. Les corps arrière n'étaient pas de calibre. Même s'il y en a beaucoup qui se sont trouvés des jobs sur des escouades de pratique, qui se sont trouvés des jobs comme substituts dans la NFL par après, ça reste que quand tu n'as pas des corps arrière qui sont capables de donner une certaine qualité de jeu, ben ça avance pas. Puis quand tu es une deuxième ligue dans ta catégorie, là, tu n'es pas une ligue différente comme la LCF. Tu es vraiment une réplique du terrain, puis avec quelques règlements près de la NFL. C'est ce qui a un peu abîmé le produit de la XFL. Mais si je reviens aux modifications que les gens du Canada devront s'habituer s'il y a un déplacement vers la XFL, encore une fois, je répète, les joueurs puis les gens au Canada, ça, je pense que si c'est la seule façon de sauver la Ligue canadienne, peut-être qu'ils se plieraient à vouloir se plier à ces règlements-là.
Mm-hmm.
Le problème, par contre, c'est qu'aux États-Unis, on ne peut pas imposer un ratio de joueurs canadiens. On ne peut pas imposer un ratio de joueurs étrangers dans les équipes américaines. En fait, c'est que c'est illégal aux États-Unis de faire ça. Donc, il va falloir sacrifier le ratio canadien. Puis ça, c'est ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de joueurs canadiens. Puis écoute, il y a beaucoup de joueurs qui ont le calibre de jouer dans la Ligue canadienne. On voit même des joueurs canadiens qui s'en vont jouer dans la NFL de plus en plus.
Mm-hmm.
Mais c'est sûr que s'il n'y avait pas ce ratio-là de joueurs canadiens, il n'y aurait pas autant de joueurs canadiens qui joueraient dans la Ligue canadienne. C'est malheureux. Puis si on s'en va vers les États-Unis, ben là, il faut déconstruire le ratio. Est-ce que tu le gardes au Canada puis tu le donnes pas aux États-Unis? Ça vient jouer complètement dans les plates-bandes des joueurs, des équipes canadiennes. Donc, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. J'ai très hâte de savoir comment est-ce qu'ils vont pouvoir avancer plus loin avec ce dossier-là, parce que j'ai de la misère à voir comment... ça, ce serait vraiment sauver le football canadien, parce que dans le fond, on le tuerait, on sauverait la Ligue pour tuer le sport, dans le fond.
Ouais, moi non, définitivement. Est-ce que j'ai parlé d'entrée de jeu au niveau de la NFL, on chiffre vers la NFL si on veut. Signature de Mike Tomlin, signature en fait, prolongation de contrat.
Ouais.
Les Steelers, puis j'ai appris ça sur Attitude Football, justement, les Steelers ont eu seulement 3 entraîneurs, genre depuis 40 ans, c'est incroyable.
Depuis 1969, ouais.
69, exact. Donc c'est plus que 40 ans, c'est 50 ans, c'est fou.
Ben, exact. C'est complètement fou, là, comme tu dis, comme réflexion. Au bout du compte, tu te rends compte que cette équipe-là a tellement une tradition gagnante tout au long de son histoire. Puis d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils sont à égalité au premier rang des concessions de la NFL pour le nombre de titres du Super Bowl avec 6. Moi, pour ces raisons-là, j'étais pas du tout inquiet pour l'emploi de Mike Tomlin la saison dernière. Je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient, avec la fin de saison qu'ils ont connue et avec les éliminatoires. Puis en temps normal, effectivement, je me serais peut-être inquiété pour un coach qui est en poste depuis longtemps puis qui est pas capable d'amener son équipe au prochain niveau. Mais dans ce cas-ci, pas vraiment, parce qu'étant donné l'historique des Steelers, on dirait que ça aurait été une plus grande raison que ça, on dirait, chez les Steelers pour congédier son entraîneur, même que peut-être une retraite. Donc, j'étais pas vraiment inquiet à ce niveau-là, mais de lui accorder cette prolongation de contrat-là, ça envoie aussi le message à tout le vestiaire. Au cas où il y avait des gens qui n'aimaient plus Mike Tomlin, qui se sont dit, hey, si on se force pas trop les 2-3 prochains matchs, la saison prochaine, il va partir. Ben, s'il y en a qui avaient ces doutes-là en tête, ça existe plus maintenant. Le Mike Tomlin est là pour rester. C'est lui le shérif de cette équipe-là. Lui et Big Ben, en quelque sorte. Big Ben va vraisemblablement quitter après la prochaine saison. Mm-hmm. Donc, Tomlin serait vraiment là, le doyen, si tu veux, là-bas. Donc, bien hâte de voir ça va être quoi la suite des choses. Mais tu sais, un coach qui a ramené deux Super Bowls à ta concession puis qui a continué à gagner parce que lui, en 14 saisons, n'a jamais eu une fiche négative. Donc, n'a jamais joué en dessous de 500 avec les Steelers. Donc, écoute, je suis pas surpris du tout de cette prolongation-là, mais je suis très content de voir qu'ils vont venir peut-être mettre un peu de calme, un peu de clarté dans la tête de ceux qui avaient dit.
C'est impressionnant quand tu penses à ça, 14 saisons, des fiches gagnantes, c'est t'sais, dans une NFL où ce que bon, c'est difficile de répéter année après année. Puis je pense que quand tu es un joueur des Steelers, faut que tu acceptes le principe que tu vas pas sortir le coach.
Peu non, importe. Exact.
Ben, ça fait partie de la culture de l'organisation, culture d'entreprise. T'as dit le mot retraite et ça m'a fait penser tout de suite à Alex Smith. Alex Smith, le corps arrière, qui a annoncé justement sa retraite cette semaine. Un peu surpris de cette annonce-là ou tu voyais ça venir?
Pas vraiment parce que lui a dit qu'il était intéressé à rester comme corps arrière partant il y a quelques semaines, là, voire mois de cela. On sait que ses jambes sont vraiment dans un piteux état. Là. Il est revenu l'an dernier malgré tout, mais rendu au match éliminatoire, pas qu'il s'était blessé dans un match. Juste avant le match éliminatoire, ça fait non, tu sais quoi, les genoux tiennent pas, il peut pas participer. Donc lui, je pense que si c'était pas pour être partant, pourquoi risquer de me blesser à l'entraînement? Pourquoi risquer tout pour au final pas jouer alors que j'ai vraiment là, les jambes en compote? Puis, écoute, une retraite bien méritée pour Alex Smith, finalement, n'aura jamais eu la chance de remporter un titre du Super Bowl, mais ça reste quand même une carrière qui, c'est drôle à dire pour un joueur qui a été choisi premier au total d'un repêchage, là,
ouais.
Mais qui a un peu passé sous le radar de quelconque façon. Avec les 49ers, ses premières années, n'avaient pas des très bonnes équipes, n'avaient pas réussi à se démarquer, étaient très souvent blessés, puis on parle de la saison 2019 qu'il a raté en entièreté avec Washington. Mais on oublie des fois que la saison 2008 aussi, il n'a pas joué avec les 49ers. Il avait un problème à l'épaule, si je me trompe pas. Oui, à l'épaule. Avait pas pu jouer cette saison-là. Donc, c'est un gars qui a été vraiment pas épargné par ses blessures en début de carrière ni en fin de carrière, mais qui, entre les deux, a eu un certain moment où il a été capable de faire des belles choses. Puis ça n'a jamais été un carrière d'élite de la carrière de la Ligue, pardon. On le sait qu'il n'avait pas un très bon bras, qu'il n'avait pas un bras très puissant, mais je pense qu'avec les Chiefs, on a eu la chance de voir la meilleure version d'Alex Smith. Andy Reid a vraiment su installer quelque chose. Puis, tu sais, on oublie souvent aussi que les dernières années, avant l'arrivée d'Alex Smith à Kansas City, c'était vraiment minable en attaque. On n'était rien capable de faire. Je me souviens d'une saison où on avait passé quelque chose comme 9 ou 12 matchs de suite sans qu'un carrière lance une passe de toucher. Donc, ça avait vraiment, vraiment été difficile pour cette équipe-là pendant longtemps. Puis, Alex Smith leur avait redonné un certain gain d'énergie. Puis, tu sais, si on se rappelle comment ça s'est terminé avec les 49ers, venait de connaître une bonne saison avec une victoire éliminatoire la saison précédente. Revient cette année-là, connaît un bon début de saison encore. John Harbaugh qui était à la barre de l'équipe. S'est blessé, Colin Kaepernick qui est rentré dans la mêlée puis qui a connu une saison vraiment formidable, qui a un peu volé son poste alors que lui, pas parce que lui l'avait perdu en jouant mal, mais c'est simplement parce que Kaepernick avait bien joué puis qu'on avait décidé de lui laisser le ballon par après. Donc, avait eu la chance de se retrouver un poste de partant rapidement dès la saison suivante là, à Kansas City et c'était devenu un des bons carrières, probablement connu même les meilleures années de sa carrière avec les Chiefs.
Oui, ouais, définitivement. Puis je pense, si je me souviens bien, c'était pas l'année de repêchage d'Aaron Rodgers, Alex Smith?
Oui, exact. En fait, même Aaron Rodgers croyait qu'il allait sortir numéro 1. Ça s'était fait confier à qu'il allait sortir premier au total, puis finalement, on lui avait préféré Smith.
Ouais, ben, c'est ça. Je pense que c'était peut-être pas une bonne décision, mais à ce moment-là, tu sais, on peut pas le dire.
Le personnage qu'Aaron Rodgers a créé d'un peu tout le temps vouloir prouver là, ses détracteurs dans l'erreur, c'est un peu de là que c'est né, là. Tu sais, j'ose croire qu'il y avait cette ADN compétitive-là auparavant, mais c'est vraiment là que le personnage est né. Je me souviens d'une entrevue où il dit je vais prouver que ça aurait dû être moi. Puis, tu sais, comme de fait, par la suite, il a réussi à le faire, puis il a connu la carrière qu'on connaît.
Ben écoute, sur ces belles paroles, on salue notre chum Eric Huard qui déteste Aaron Rodgers et qui est peut-être à l'écoute.
Salut.
Avant de passer à mes prochains invités, Renaud, qu'est-ce qu'on surveille là dans la NFL, premièrement? Là, il y a le repêchage qui s'en vient la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a quelque chose autour du repêchage qu'il faut vraiment regarder?
Ben, écoute, moi, ce qui m'intéresse comme beaucoup de partisans, là, présentement, c'est ce qui va se passer au troisième choix total du prochain repêchage, parce qu'en ce moment, on n'en a vraiment aucune idée. Trevor Lawrence va sortir numéro un chez Jaguars de Jacksonville, aucun doute là-dessus. Écoute, Zach Wilson, moi, je suis presque prêt à mettre ma main au feu qu'il va sortir à New York. Tout ce qu'on voit nous indique qu'il va aller à New York. Est-ce que ce serait juste un écran de fumée? Si oui, c'en est tout un. Mais je crois pas que c'en est un. Je pense que vraiment que les Jets vont aller avec Zach Wilson. Mais maintenant, au troisième choix total, c'est vraiment intriguant parce que, selon toute logique, ben bref, à mon avis, un gars comme Justin Fields serait un choix évident là, même s'il nous a annoncé hier qu'il souffrait d'épilepsie. Un gars comme Trey Lance aussi, pour moi, est un gars intéressant, surtout dans le schéma qu'on a en attaque chez les 49ers. Mais il y a beaucoup de rumeurs qui envoient Mac Jones de l'Université Alabama aux 49ers. Puis je me l'explique un peu mal. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi on a payé le gros prix pour monter troisième au total pour un gars qui, je te dis pas qu'il aurait été disponible au 12e total où les 49ers étaient avant de transiger avec les Dolphins, mais qui aurait probablement pu coûter moins cher, être sélectionné à un rang qui aurait coûté moins cher. Bref, je suis un peu surpris que les 49ers privilégient un gars comme lui devant un Justin Fields ou même un Trey Lance. Ceci étant dit, on ne sait pas qu'ils vont prendre à toutes les semaines les. Si tu
ça
regardes
change.
Les. Ouais, les codes de paris, là, ça change. Oh, ouais. Qui est le favori, ça change à toutes les semaines. Mais on sait que que Kyle Shanahan aime bien Mac Jones. Donc écoute, on verra. Ce ne serait pas la décision que je ferais, mais en même temps, je ne suis pas du tout en charge d'une équipe de la NFL. Donc. Je vais laisser les pros le faire.
Hey Renaud, merci beaucoup. Première émission 100% sport et Attitude Football sera avec nous toutes les semaines pour jaser de football. Des fois, il y aura moins d'actualité à jaser. On verra de quoi on va jaser, mais je suis sûr qu'on va trouver quelque chose. Ouais, c'est ça. On devrait être capable de trouver pas mal de sujets à jaser. Merci mon chum d'être là, puis on se reparle bientôt.
Ben merci à toi, puis bravo pour ton nouveau show.
Hey, thank you Renaud. Ciao.
Salut.
Renaud Bourbonnais, Attitude Football. On revient avec une entrevue, comme j'ai annoncé sur la page Facebook. Une entrevue avec deux coachs de hockey que j'aime bien. Donc, on revient dans quelques instants avec Charles Dupéré et Jean-François Lavergne. Les voici, les voilà. Mon Dieu, vous êtes donc bien petits. Attendez une minute, on va replacer ça. Hey, boy. Il semble qu'on est petit. Salut les gars, comment ça va? Attends, on va enlever une coupe d'affaires à l'écran. Bon, voilà. Si on enlève les banners, là, on vous voit un peu mieux. Donc, dans le coin supérieur droit, monsieur Charles Dupéré, en charge, entraîneur-chef, en fait, du programme de hockey en division 1 des Nordiques du Collège Lionel Groulx. Est-ce que j'ai dit ça comme il faut? Tu es en charge du programme au complet, en fait.
C'est bien parfait, merci.
C'est bon, hein, c'est pas pire. Et Jean-François Lavergne, entraîneur-chef et directeur général des Flames de Gatineau, Midget 3. Ça, je le dis plus souvent, celui-là, fait que je suis un peu meilleur pour le dire. G, ça va?
Très bien.
Très, très bien. Très bien. Good, good. Les gars, ça me tentait de parler de hockey avec vous autres parce que, bon, Charles, cette semaine, ben, il y a une couple de semaines, tu as lancé un projet, je pense, qui te tient pas mal à cœur, qui s'appelle Coaches IQ, c'est ça?
Exactement.
C'est pas pire. Puis, bon, là-dessus, tu nous montres, ben, en fait, pour les passionnés de coaching, pour les passionnés de hockey, tu nous montres des drills pour pratiquer certains aspects du jeu, etc. Et c'est fait, ma foi, du bon lieu, de façon parfaite. C'est facile à comprendre, c'est fluide, tout ça. C'est-tu un projet que tu avais en tête depuis longtemps?
Honnêtement, ça fait quand même longtemps que j'y songe, mais je ne sais pas si j'avais la capacité de le faire. Dans le temps, tu sais, de la technologie, moi, je ne suis pas parfait dans la vie sur la technologie. Fait qu'au départ, il fallait que je m'entoure de personnes. J'ai une personne qui m'aide énormément là-dessus. Puis ça me donnait encore plus le goût de m'avancer à ce projet-là. Dans le fond, je le fais parce que j'aurais aimé ça, avoir ça avant.
OK, ouais.
Je le dis honnêtement, là, ouvertement, je le fais juste pour le plaisir. Si je peux aider des gens, moi le faire. Sinon, moi, j'ai un fun fou à faire ça. Tu sais, tu disais que c'était fait à la perfection, mais je te le dis, là, des fois, une capsule, je peux recommencer aussi 20 fois. Puis des fois, je sac dans le bureau. Faudrait que je me fasse un blooper à la fin de l'année.
Ah, ça serait bon. Moi, je pense que tu aurais pas mal de clics sur les bloopers, en fait.
Ouais, ben, c'est ça.
Regarde ça.
Qu'on n'entendrait rien.
Regarde ça pour asseoir les bloopers, on va t'en faire une
coupe. C'est bon, c'est bon. Parce que, ben, juste pour dire que Jean-François, tout de suite après le live, on s'en va faire un entretien, là, un pré-enregistrement pour demain soir. Là. C'est mon premier invité de l'année. Fait que je suis bien excité.
Ben c'est ça, on va en parler. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes les deux invités en même temps. C'est que G, tu vas participer au projet avec Charles, mais t'avais lancé un petit projet toi aussi au départ, tu sais, de live au début de la pandémie, mais bon, t'as abandonné, on va le dire.
On va se le dire. Il manque un peu de discipline.
Ben, c'était un petit peu moins technologique. Tu nous montrais les drills sur le tableau, fait que déjà là, c'était un peu moins techno, mais je pense que toi aussi, t'es passionné de partager un peu ton savoir puis d'aider les coachs.
Ouais, ben, tu sais, c'est le fun, tu sais. Puis à un moment donné, pendant le début de la pandémie aussi, on dirait qu'on cherchait tout quelque chose à faire, là, tu sais, à me donner un break d'être enseignant à temps partiel de mes enfants, parce que je me suis rendu compte que tous mes chums enseignants, c'est des machines, parce que c'est pas évident, puis... Aussi, tu sais, on cherchait des choses à faire, puis on voulait faire du hockey, tu sais, puis on a travaillé beaucoup avec les plateformes, justement, de Zoom, Teams et compagnie, là, tu sais, pour être capable de nous d'adresser des choses avec nos joueurs pendant la pandémie. Ben, je me disais que ça pouvait être bon aussi pour le faire pour des coachs, tu sais, puis les aider un peu là-dedans. Fait qu'au début, j'avais fait quelques drills, je crois que j'ai fait 5-6 drills. Mais tu sais, à un moment donné, on a eu l'opportunité de retourner sur la glace pendant une couple de semaines. Fait que là, je manquais un peu de temps, puis on a abandonné le projet. Mais de voir que mon chum Charlie a mis ça en place, je trouve ça vraiment super cool. Puis de participer puis d'embarquer là-dedans avec lui pour une capsule, c'était j'ai même pas réfléchi 2 secondes et demie.
Parce qu'à la base, vous êtes les deux des passionnés qui n'ont pas laissé tomber leurs joueurs malgré la pandémie. G, je sais, t'as organisé des Zooms justement avec des intervenants de hockey, des anciens joueurs, des coachs, des préparateurs physiques. Charles, je sais que t'as fait plein d'activités aussi. Vous avez même fait des vidéos pour l'esprit d'équipe et encourager les gens à passer à travers cette pandémie-là, tout ça. Donc vous avez soutenu vos joueurs, vous avez été là pour vos joueurs, ça fait partie de votre personnalité. Puis j'imagine qu'à travers ce projet-là, ben vous voulez faire la même chose avec les coachs qui vous entourent un peu?
Moi, c'est donner au suivant. Tu sais, juste sur les capsules que je fais, là, je peux aider. Puis il y a vraiment, comme j'ai dit au départ, je voulais vraiment aider des coachs. Que ça passe, même moi, je vais sur YouTube, je regarde ça, puis il y en a. Tu sais, j'ai pris l'idée, j'ai pas rien inventé. Mm-hmm. Mais j'ai des chums qui m'ont écrit pour savoir, hey, tu pourrais-tu, mais, exemple, tel exercice, tu serais-tu capable de la convertir en demi-glace, puis tu sais, pour moi, là, puis Jean-François, c'est la même affaire. Nous autres, là, on veut juste parler de hockey. Moi, quelqu'un qui me texte, mais go, on veut jaser de hockey. On est des coachs de hockey, on ferait juste de ça de notre vie, parler de hockey. Fait que si je peux recevoir un petit pop-up, là, un petit messenger, hey, peux-tu m'aider? Hey, ça va me faire plaisir, je le fais tout de suite. Je vais tout lâcher pour venir t'aider. Fait que c'est vraiment important. Puis on parle aussi de l'équipe collégiale, comme Jeff il a fait. J'ai vu qu'il avait fait des zooms et tout. C'est vraiment important de garder les gars. Les gars, ils se sont sentis soutenu, t'es pas tout seul chez eux parce que tu veux pas, c'est tough. Puis tu sais, je vois juste Jean-François, j'ai vu que là, cette semaine, il nomine les 20 ans. T'sais, c'est important là, de leur donner du statement un peu parce que les joueurs là, sont dans l'ombre. Puis sont des gars de cet âge-là là, sont frais. Là. À la gang, sont frais, mais quand ils sont tout seuls chez eux, là, mais ils ont besoin d'aide. Puis en faisant un petit zoom ici et là, des sujets. C'est quoi de mieux pour remonter le moral puis d'être en gang, même si c'est sur Internet.
Plug-nous ça un peu. C'est disponible où, tes capsules, Charles?
Sur YouTube, c'est Coaches IQ. Sur ma page Facebook, à chaque fois, là, Charles Dupéré, je les partage. Même chose sur Facebook, là, Coaches IQ. Je suis quand même surpris, là, ça dépend des capsules, mais entre 30 et 50 personnes qui regardent je fais trois fois semaine. Fait qu'à chaque fois, tu sais, en bout de ligne, là, je le fais pas pour avoir beaucoup de vues, mais tu sais, c'est flatteur, puis j'attends juste à demain soir, ça va péter. GF, demain, 6h. Tao! Hey, ça va être 8h. Hein.
On va le partager sur en zone neutre quand ce sera en ligne puis tout ça. D'ailleurs, de toute façon, je le sais que tu le fais pas pour les views, puis les views vont péter quand le monde va en avoir besoin. Ça va être surtout ça qui va arriver.
Effectivement.
Les boys, vos saisons de hockey ont été terminées abruptement. Charles t'en a parlé, mais vous avez fait un bel honneur à vos joueurs de 20 ans pour les remercier. Certains n'ont même pas joué pour les Flames, en fait. Comment que c'est de dire au revoir à des gars, sachant que t'as même pas pu les avoir sur la glace une dernière fois, là?
Ouais, ben, nous autres, c'est important, dans le fond, de le faire, tu sais, ces gars-là. Il y a de ces gars-là qui vont jouer ailleurs l'année prochaine, mais tu sais, tu demandes à n'importe quel joueur qui va parler de son parcours junior, c'est un parcours important pour toutes les... Tu sais, je dis junior, là, mais tu sais, j'inclus collégial aussi. Tu sais, le parcours de cet âge-là, là, des 17 à 20 ans, c'est un parcours important dans leur vie. Tu sais, veux pas, tu parles d'adolescents qui deviennent des hommes en dedans de 2, 3 ans, 4 ans. Dans un parcours de joueur de hockey, tu sais, fait que c'est une étape importante pour la plupart de ces joueurs-là dans leur vie. Peu importe ce qu'ils font après, tu sais, s'il y en a qui vont jouer en Europe, d'autres qui vont jouer universitaire, on a des bonnes nouvelles dernièrement, là, au niveau de nos joueurs de 20 ans, justement, qui réussissent à se placer. On est content de ça, mais de leur rendre un petit hommage comme ça. Puis, tu sais, oui, on n'a pas joué de match, on a joué 4 matchs, là, pour être honnête, mais, tu sais, ces gars-là, ils ont été sur la glace, pratiquement jusqu'à temps qu'on tombe en zone rouge foncé, si tu veux. Là. On était sur la glace quand même. Ces gars-là ont fait le commitment de se présenter tout le temps, faire des pratiques à 4 gars sur la glace, un dans chaque coin. C'est pas évident. C'est pas ça que tu veux faire comme joueur de hockey. Oui, ton développement individuel est important, mais ça fait partie d'un plus gros package, si tu veux, dans ton développement. Puis d'arriver sur la glace puis faire juste ça pendant 4-5 mois de temps sans jouer de match de hockey, ou est-ce que ça, c'est pay-time, là, tu sais, sans en faire. C'est quand même un commitment, des sacrifices pour ces gars-là, la détermination qu'ils ont eu de le faire. T'sais, nous autres, on a un paquet de joueurs, en plus, qui viennent même pas de la région, qui étaient ici. T'sais, on se le cachera pas, le cégep de l'Outaouais, c'est super beau. L'université, c'est super beau. Collège Heritage, là, pour nos joueurs anglophones, c'est super beau. Mais c'est pas pour ça qu'ils viennent ici, là. On se le cachera pas. Ils viennent pour jouer au hockey. Fait que, oui, tu vis dans la région, tu continues tes études, tu continues les salles à se pratiquer, tu joues pas de match. T'es loin de ta famille, t'es loin de ton monde. Tu sais, j'ai des joueurs amérindiens, là, qui vivent à 13 heures de route d'ici, là, qui ont passé l'année ici à venir sur la glace avec nous autres, puis qui ont pas vu leur famille, pantoute. Tous ces petits sacrifices-là, ce commitment-là, ben là, on va essayer de utiliser nos plateformes de médias sociaux et tout ça pour leur rendre hommage pour tous les sacrifices qu'ils ont fait.
Ah, puis je pense que c'est quand même assez important, là, tu sais, là, ils méritent ça.
Ouais, définitivement. Puis tu parles de certains joueurs amérindiens qui sont des superstars dans leur coin de pays, là. Un de tes joueurs, d'ailleurs, vous aviez publié une vidéo, là, quand il est rentré dans une chambre de hockey dans son coin, là, c'était comme si c'était Wayne Gretzky, là, qui rentrait, là. Fait que c'est des modèles. Ces jeunes-là, c'est aussi des modèles pour les plus jeunes, tu sais, là, en arrière d'eux autres, là. Comment que c'est de vivre avec, tu sais, le sentiment que des joueurs qui perdent une année de hockey carrément, là, je sais, vous avez fait quand même des trucs sur la glace, en dehors de la glace, puis tout ça, puis vous les avez soutenus, puis tout ça, mais comment c'est de voir des joueurs que vous savez, là, que pour eux autres, c'était une année cruciale, soit pour aller jouer en Europe, ou soit pour, tu sais, pour le reste de leur cheminement, puis tout ça, comment c'est de voir ça, tu sais, en commençant par Charles, de pas pouvoir rien faire devant cette situation-là?
De mon côté, c'est moins, ça arrive moins fréquemment parce qu'en général, les gars ils arrivent à 17 ans, ils font leur cégep 17, 18, 19. Fait qu'ils ont encore la chance de jouer dans le junior 3A ou junior A, peu importe. Mais je me mets dans la peau d'un joueur. Puis à tous les jours, je pense à ça. Juste moi, personnellement, si c'était la dernière année, hey, ça, je serais à terre. Mm-hmm. Fait que tu sais, puis je trouve qu'il y a des gars qui ont de la résilience, là, tu sais, moi je suis chanceux, les gars ils se placent les pieds, on dirait que j'ai moins de stress pour eux, mais tu sais, juste là, cette semaine, j'ai vu mon ancien goaler là, de première année, 17 ans, il a joué chez nous un an après, il a monté dans le Q, il a fini 20 ans, il a peu de saison, il a écrit un message, là, juste le lire, là, ça me détruit, fait que tu sais, je mets même pas dans la peau des gars, fait que tu sais, c'est tough, mais encore là, c'est un processus qu'ils vont pouvoir, tu sais, il y en a là-dedans, dans la pandémie, ont peut-être trouvé d'autres passions, puis tu sais, encore, tu sais, nous autres, on a reviré en coach, eux, s'ils veulent, ils peuvent revirer, ils peuvent rester dans le monde du hockey, sauf que ta retraite est pris, pogné du papier sablé, disons.
Très prématurément.
Tu peux pas avancer, là.
Ouais. G, toi, tu le vis peut-être un peu plus parce que certains de tes joueurs, c'est, ils savent pas où ils s'en vont après leur passage junior, j'imagine.
Ouais, ben, tu sais, la pandémie, il y a du négatif, mais il y a aussi du positif. Ça nous a permis de, tu sais, malheureusement, ils n'ont pas pu se faire voir tant, mais positivement, on a été capable d'être en communication, si tu veux, avec le prochain niveau, tu sais, puis essayer de les aider, puis essayer de les placer. Fait que, mais non, comme Charles dit, tu sais, c'est pas évident, là. Le gars qui finit 20 ans junior, là, c'est vraiment pas évident. Sauf que, tu sais, en bout de ligne, et moi j'essayais de leur vendre que c'est pas une fin en soi, là, c'est le début d'autre chose. Puis peut-être que ça va être plus dur pour toi, mettons, de te placer. Ça va être peut-être plus dur l'année prochaine, de faire ta place, parce que là, on s'entend que il va y avoir beaucoup de gens pour prendre le bateau, mais il y a plus grand place dans le bateau. Parce qu'il y a bien des équipes. Si je regarde, mettons, il y a tellement de joueurs qui n'ont pas joué cette année que. Tu sais, maintenant, on regarde les équipes en Europe présentement. Tu as des équipes de deuxième division qui vont se retrouver avec des joueurs tellement talentueux parce que tout le monde arrive dans le bout de l'entonnoir là, en ce moment. Là. Fait que c'est un petit peu plus complexe. Fait que, mais tu sais, les joueurs qui vont réussir à se faire une place, ben, ils vont en sortir grandis de ça. Mais c'est pas évident. Là. Comme Charles a dit, là, moi, je vois des messages passer aussi. Puis même, c'est, des fois, c'est même pas mes joueurs. J'ai le cœur. Tu sais, moi, je suis un gars émotif dans la vie, Charles aussi. Tu sais, moi, ça me pogne. Je me dis, ce jeune-là, il peut-être qu'à cause d'un virus là, qui est arrivé, je ne sais pas comment ici, ben, à cause de ça, il va être obligé d'arrêter ce qu'il aime faire le plus. Peut-être qu'il n'y aura pas d'opportunité pour l'année prochaine à cause de ça. Ça va lui rendre ça plus difficile. En tout cas, c'est toutes des pensées si bien, là, mais c'est un peu fatigant quand tu regardes ça, puis ça vient te chercher.
Si je peux me permettre, tu sais, dans une situation comme ça, là, tu sais, je vois, c'est sûr que GF, il a pris le dossier de ses 20 ans, puis il a travaillé pour essayer de les placer à droite pas à gauche. Peut-être qu'une année normale, tu n'aurais peut-être pas mis la même énergie. Tu l'aurais fait. Moi aussi, cette année, je veux tout faire. Mes 19 ans qui finissent à cégep peuvent jouer junior 3A. Mais juste le fait de le faire, puis tu travailles, ça mal fonctionne pas, mais au moins, comme personne, tu vas avoir eu le feeling d'être allé jusqu'au bout. Mm-hmm. Sinon, mais faut que tu leur montres aux joueurs que tu travailles pour eux, puis eux, ils ont une reconnaissance, ça c'est sûr et certain.
J'ai pas de doute que vous faites tout pour vos joueurs parce que je vous connais un petit peu. Il y en a un que je connais plus que l'autre, là. Mais je le sais à quel point vous êtes déterminé pour vos joueurs puis que la suite des choses pour eux autres, tu sais, parce que pour jaser des fois avec mon frère, je le sais que c'est plus que juste le passage du joueur au niveau où est-ce que vous le coachez. C'est tout qu'est-ce qu'il y a après puis tout qu'est-ce qu'il y a le côté humain puis comment ces joueurs-là vont grandir dans chacune des situations. Je me suis fait tellement répété par G que ça s'est rendu imprégné dans ma tête aussi. Donc, je vous félicite pour ça. Et on shift un peu la discussion vers le hockey professionnel, les gars, parce que tant qu'à vous avoir, on va parler un petit peu de la Ligue nationale. Qu'est-ce qui se passe avec le Canadien? Belle victoire hier, mais là, ça commence à sentir le brûler un peu parce que tout le monde veut leur place en quatrième place de la Division Nord. Comment vous voyez ça? Le Canadien va-tu rentrer dans les séries avec beaucoup d'énergie? Ou ils vont être que de passage s'ils sont encore là?
C'est comme ça, 10%, là, on peut-tu sacrer?
T'as le droit, ouais, c'est plus les coachs, là, c'est okay. Les fans de hockey à qui je parle en ce moment.
Ben moi, je pense qu'en ce moment, on ne sait pas ce qu'il veut. On ne sait pas, c'est là qu'on va savoir ce que le Canadien vaut, tant qu'à moi, parce que tu sais, tant que t'es pas rendu, tant que t'es pas rendu sur le bord du précipice, ben, tu sais pas ce que tu vaux vraiment, tu sais. Tu sais pas si tu vas sauter dedans ou par-dessus. Fait que, tu sais, pour moi, c'est là qu'on va le savoir, là. C'est les prochaines semaines. Tu sais, je pense hier, quand même, une performance correcte, là. Fin de match, sûrement, à oublier, mais, tu sais, comme coach, là, Charles, il peut te le dire aussi, à la fin de match du Canadien, c'est genre le fin de match que tu veux pas avoir, là, justement, parce que tu veux bâtir ta confiance, tu sais, quand tu mènes par deux, tu veux t'en sortir, justement, à 4-2 pour bâtir la confiance de ton équipe pour le prochain match et non voir l'autre équipe revenir, puis là, créer du doute. Tu sais, le doute, c'est la pire astuce d'affaires qu'il y a pour hockey. Fait que, ben là, c'est là qu'on va savoir, tant qu'à moi, tu sais, justement, parce que là, Vancouver va bien, ça commence à chauffer, le Canadien va pas super bien. Tu le sais en partant que si tu fais les playoffs, qui tu vas pogner en première ronde? Tu le sais que ça va être Toronto en partant, tu sais. Fait que déjà là, tu as ce sentiment-là de dire, bon, ben, il va falloir qu'on soit prêt la journée que ça va commencer parce que Toronto va en l'être. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est là qu'on va savoir vraiment la valeur du Canadien. Puis là, en ce moment, tu sais, de mon côté, je regarde ça d'un œil de partisan, si tu veux, puis je me dis, tu sais, ils sont fragiles un peu, là, parce que là, ça va pas super bien. Il y a eu des blessés, il y a du doute qui s'installe. Moi, je dis toujours, la journée qui a plus de doute que de confiance, c'est dans la mort. Elle t'a dit que j'avais le droit de parler comme un partisan.
Ah oui, non, mais c'est correct. T'as même pas sacré, en plus.
Non, je m'attendais à
ça. Je suis quasiment déçu.
Moi, Charles, t'en penses quoi? Honnêtement, là, à 4-1 hier, là, je pense que Dom Ducharme, il aurait voulu fermer les switch puis finir. Comme dans l'ancien compte, quand ils ont racheté, à Jacques Mercier, ont acheté l'équipe. Puis... Parce qu'à 4-1, tu rentres dans la chambre, là, les gars, ils ont plus de doute. Ils sont, ah, on est bon, on est reparti. Calgary, là, à la fin, ça chie. Là, tu es stressé. Puis là, tu sors le puck, tu joues avec le bâton entre les mains, bien serré. Mais. On voit qu'il y a des, là on peut le dire, il y a des méchants chieux dans cette équipe-là, puis c'est ça qui fait mal, puis ça fait une frustration, puis je parle pas juste d'un, j'en parle d'une coupe. Tu sais, j'ai aimé à radio tantôt, là, ils ont dit que, puis c'était vraiment bon, les arbitres, ils ont serré le sifflet comme une game de playoff.
Puis
ils se donnaient vraiment des Sherwood, puis quand je suis arrivé chez nous, ils disaient que Shea Weber faisait sa game de hockey, puis hier, honnêtement, j'ai vu des flashs du match, puis je trouvais que c'était vrai, qu'il était hard, mais ce gars-là, son rôle, tu le regardes, t'as peur. Mais juste regarder à la TV, je me dis, hey, s'il pose une question, c'est sûr qu'il saute dessus. Fait que je me dis, hier, ils ont serré le sifflet, Ben Sherrod puis Weber, ils ont frappé comme n'importe quoi, puis ça apporte des fruits.
C'est-tu, okay. Tu sais, vous êtes les coachs, vous autres, là, puis ce que Weber, il a dit cette semaine, que c'était pas Shea Weber, mais que c'était l'équipe, puis que ça donnait rien de parler de Shea Weber en tant que tel, puis de ses stats, puis tout ça. Comme coach, t'es content d'entendre ça, mais comme journaliste, ça a été repris tout croche, puis ça a été fait comme si Shea Weber s'en sacrait ben raide, mais en réalité, comme coach de hockey, vous autres, t'entends ça d'un joueur, il fait passer l'équipe en premier, non?
Moi, personnellement, là, le call, moi, il me dérange pas. Moi, c'est Joe Drouin. Son call, je trouvais que c'était ordinaire. Le gars, il fait même pas de shot. Hier, il y a eu deux shots. Peut-être une shot à la dernière game. Moi, personnellement, à la place de caller, je commencerais à prendre mon trou puis juste travailler. Puis là, en plus, là, tu sais, encore, c'est des rumeurs. Qui qu'on croit maintenant? En pandémie, là, tu lis n'importe quoi.
Mm-hmm.
C'est pour un qui est blessé, même pas capable de shotter. Qu'est-ce que tu fais dans le line-up? T'as le droit d'aller cogner à la porte puis dire je suis blessé, là. Parce que là, plus ça va, il y a peut-être de la frustration à l'interne. Nous autres, on voit rien. Puis, tu sais, les spéculations, quand tu vois rien, c'est encore pire, là. Fait que, tu sais, encore là, c'est quand je parlais de chieux un peu, mais
c'est ça.
Je pense aussi que le facteur, il y a des éléments avec la pandémie qu'on connaît moins ou qu'on commence à apprendre, tu sais, l'histoire des rappels, puis là, de temps de rappel, de la liste de réserve, toutes ces affaires-là, tu sais, là, on se rend compte un peu qu'ils ont pas très bien joué leur carte, que là, tu sais, s'il y a un joueur blessé dans le line-up, et en ce moment, c'est peut-être à cause de tout ça qu'il reste dans le line-up, tu sais, il y a peut-être l'affaire de même que tu sais pas trop. Mais j'aime ton point chez Weber, tu sais. Moi, on s'est entendu, là, en tout cas, je ne vais pas nommer de nom, mais je n'ai coaché des gars de même, moi, qui ont une certaine réputation, puis que les arbitres, ils laissent aller ces gars-là, tu sais. Puis là, chez Weber, hier, il a utilisé son statut de l'ancien chez Weber, jouer du slashing, du Sherwood, du cross-check en masse, jouer une game de playoff. Tu sais, fait que, tu sais, si chez Weber, si les arbitres, ils laissent aller de même, tu sais, de la fin de la saison, puis ils laissent aller de même dans les playoffs, ben, chez Weber, il y a de la valeur, c'est sûr et certain. Parce que s'il peut jouer de même, tu sais, il y avait des games, des fois, tu vois chez Weber, cross-checker un gars, là, tu sais, tu te dis, c'est sûr et certain que si c'est Kulak, il cross-check le gars de même, il y a un 2, là. T'sais, c'est garanti qu'il y a un 2. Parce que c'est chez Weber, il n'y a pas de 2. Tu sais, en partant, je vais mettre ton commentaire, Charles, là-dessus, parce que hier, c'est incroyable. Et chez Weber a dû finir avec 6-2 minutes pour slashing, puis probablement 8 cross-check dans une game normale là, où est-ce que l'arbitre compte tout.
J'en ai parlé d'entrée de jeu aussi dans le podcast, mais les Canucks, est-ce que ça vous fait peur, les Canucks? Est-ce que le fait, oui, OK, ils ont pogné la COVID et toute la kit, là, mais c'est-tu pas assez rassembleur, ça, mettons, pour finir la saison comme en flèche? Moi, ils me font peur, eux autres, pour aller chercher le spot du Canadien, quatrième place. Là.
La seule affaire que je vois, là, oui, ils font peur parce qu'ils jouent super bien et c'est vraiment bon. Mais là, ils l'ont dit à la radio qu'ils ne peuvent pas dépasser, je pense, que c'est le 12-14 mai. Fait que s'ils pognent une troisième vague, on est correct. S'ils repognent la COVID, troisième vague, je vous le dis, on est safe. Sinon, on est dans la marque.
Fait que c'est « on rely on the injury » ou je ne sais pas quoi. Là.
Ouais. C'est sûr, parce que là, ça va être une autre affaire. T'sais, moi, je me dis... Des fois, le cerveau se fait aller quand tu écoutes le hockey. Là, tu entends l'analyste dire ouais, là, avec selon le pourcentage de victoire, il passerait, puis telle affaire. Même. Puis je me dis tout le temps, tu sais, tous les poolers qui ont pris des gars, puis là, ils vont finir la saison avant le temps, tu sais, pas le même. Mais ça, c'est. Mais non, tu sais, moi, personnellement, à Vancouver, tu sais, je pense en bout de ligne que, tu sais, mon. Parce que, comme je disais tantôt, c'est là que tu vas voir le caractère de cette équipe-là, tu sais, de Montréal, voir comment ils vont se relever. Puis là, tu sais, en jouant trois fois, là, ils jouent trois fois en trois matchs contre Calgary, qui aussi, tu sais, s'ils les battent, ils vont chercher 6 points. À 6 points, ils se rapprochent pas mal de Montréal. Puis là, c'est là que tu vas voir le caractère de cette équipe-là, à quel point ils veulent s'en sortir, à quel point ils veulent rester là. Fait que, tu sais, ça, moi, je pense que c'est ça, tu sais. Puis là, en ce moment, tu sais, hier, les derniers matchs du Canadien, je me disais, putain, là, c'est plate à regarder, là, tu sais, ils mettent l'emphase sur le jeu plus défensif. T'sais, moi, ils jouent du hockey que je déteste. Quand je joue ses talons, au lieu de jouer sa pointe des pieds, j'ai ça pour mourir. Puis là, je les voyais jouer de même. Là, hier, à cause que c'était une game intensité, forecheck, fini tes checks, le kit, ils jouaient sa pointe des pieds. Ça, c'était une game excitante. C'était le fun d'avoir à jouer. T'sais. Fait que je pense que s'ils se mettent ça dans la tête, qu'ils font du renforcement positif, puis un peu de vidéo, ces bonnes séquences qu'ils ont fait hier, puis qu'ils jouent de la même manière contre Calgary, ben. Je pense que dans 3 games, on va avoir une méchante bonne idée de où est-ce que Montréal va finir.
Les gars, je vous lance ma question du jour dont personne n'a répondu dans les commentaires. Donc, je pense que je vais brainstormer plus longtemps pour ma prochaine question du jour. Mais est-ce que avec 1768 matchs et still counting là, pour Patrick Marleau, est-ce que c'est un billet automatique vers le temple de la renommée pour Marleau?
Ben, moi, je oui. Mais pas juste à cause du nombre de matchs qu'il a joué, à cause de l'impact qu'il a eu dans la Ligue nationale quand même. Tu regarderas la liste des joueurs qui sont au temple de la renommée, c'est pas tous des marqueurs de 50 buts à toutes les saisons. C'était des gars, tu sais, je pense pour rentrer au temple de la renommée, il faut peut-être marquer le sport ou marquer peut-être une équipe. Lui, c'est sûr qu'à San Jose, quand on parle de Marleau, c'est lui qui a marqué un peu cette franchise-là. Puis,
mais Pat Falloon aussi.
Ouais. Non, mais moi, je le vois rentrer au temple de la renommée, pas juste à cause du nombre de matchs, mais oui, ça l'aide, c'est sûr. Mais je pense que tout ce qui a amené à San Jose, puis là, tu sais, ça revient tout à au débat de voir, mais tu sais, les fameuses Coupes Stanley, puis ça. Mais tu peux avoir accompli quelque chose d'impressionnant dans ta carrière sans avoir remporté la Coupe Stanley. Puis, tu sais, la Coupe Stanley, c'est pas juste relatif à toi comme individu, c'est relatif à l'équipe qui était passée à l'entour de toi aussi. T'sais. Mais j'aimerais mieux voir un gars de même, autant de la renommée, qu'un gars qui est unidimensionnel, un marqueur de but, mettons, qui, oui, c'est sûr que c'est important de marquer des buts, mais c'est unidimensionnel. C'était des gars qui vont ramasser 60 buts par année, qu'il y a des saisons qui vont avoir 60 buts par année, mais qui ramassaient 3 passes. Mais qui ont été mis sur un piédestal parce qu'ils étaient capables de scorer des goals. OK, fine. Sauf que si tu regardes l'ensemble de l'œuvre d'un gars comme Patrick Marleau, un gars qui a joué en piqué toute sa carrière, qui aurait pu gagner le Selke si c'était pas qui a joué en même temps que Patrice Bergeron. Sinon, tu sais, je pense que tout l'overall de ce gars-là mérite d'être au top de l'œuvre.
Tu sais, je suis vraiment d'accord avec GF, là. Moi, il rentre all-in. Puis lui, depuis qu'il est rentré à aujourd'hui, année après année, il a un impact positif, autant sur le développement de ses coéquipiers. Puis à lui aussi, là, il a toujours fait du bien. Là. C'est pas un boulet à l'organisation. Là. Il aide match après match, année après année. T'sais, il a remporté des gros matchs importants. Avec Team Canada, il a remporté des médailles. C'est vraiment ouais. Qu'est-ce qu'il a apporté pour son sport. Oui, le nombre de matchs est tel que tel, mais qu'est-ce que tu as fait de ton sport? Pour ouais. Moi, là, ça n'en dit long. Là.
Les gars, je sais que vous avez d'autres choses à faire. Il faut que vous alliez éduquer tous ces beaux coachs d'hockey-là de la province du Québec à soir. Fait que je vous laisse aller avec quelques commentaires. On a Bernard-Olivier Loyer qui dit « Le meilleur DG, le dupe ». Puis qui va aussi d'un commentaire sur Patrick Marleau. Une solide carrière, un leader naturel, une carrière de Iron Man, c'est certain. On a G, on a Martin Crête qui dit « Oublie pas, G, avec tous les points qu'on a ramassés, on va pouvoir se pogner gratuitement une belle grosse salade. » Je sais pas ce que ça veut dire.
L'annonce de skip.
C'est ça. OK, ouais. C'est ça. Puis, on a aussi un user sur Twitch qui dit « Wanna become famous? Buy followers and viewers. » Fait que j'imagine que c'est un scam. Fait que les gars, merci d'avoir été là. C'était vraiment cool de vous parler. Puis, je pense que votre opinion, mais surtout ce que vous faites pour les hockeyeurs au Québec, là, puis toutes les jeunes qui ont passé dans vos organisations, je le sais par expérience que ils sont plus que reconnaissants de votre travail. Fait que lâchez pas, puis vous êtes des inspiration à votre manière, les gars.
Ouais, ben merci beaucoup, Simon, puis bonne chance, puis lâche pas ton bon show.
Thank you, les boys. Ciao. Right.
Salut.
All right. Merci, les gars, d'avoir été là. Ben oui, Yann Neveu vient d'arriver. C'est fini. Ben oui, c'est à 6h, ce show-là, mon vieux. Mais tu peux le réécouter sur YouTube, hein, sur YouTube, en Zone Nerd Podcast. Et tu peux l'écouter aussi sur Facebook, peu importe où tu vas l'écouter. Il va être en audio aussi plus tard ce soir. Donc, tu peux l'écouter sur Spotify et Google Podcast. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. C'était vraiment le fun comme première édition hockey. Je travaille aussi sur l'édition de la semaine prochaine. Je peux tout de suite vous assurer qu'on va parler de golf avec Johan Benson qui est enseignant de golf et aussi professionnel au club de golf Le Mirage, la saison qui a commencé en Lyon cette année au golf. Donc on va jaser un petit peu de golf avec lui et d'autres invités aussi. Donc manquez pas ça cette semaine, je vais annoncer qui va être là sur le show et les shows matinales aussi. Je fais les podcasts le matin du lundi au jeudi matin où je parle un petit peu plus résultats d'actualité sportive, qu'est-ce qui me frappe dans le fond, qu'est-ce qui me frappe quand je regarde les médias le matin. Donc, je vous jase de ça du lundi au jeudi matin. Fait, j'espère que vous avez aimé ça, puis sur ça, ben, bonne fin de soirée et à la semaine prochaine. Ciao!